Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ok, Lamborghini Pape. Le Pape, il y a une Lamborghini. Okay?
Hein?
Ah oh, ouais, ça marche. Je mettais ça en combo avec mon grid cheese au micro.
Conférence devant quatre personnes.
Ok.
Quatre personnes. Ok.
Oui.
Bonsoir tout le monde, bienvenue au show des Trois Flots tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur les ondes de CJMD 96.9, la radio de Lévis. Ce soir, on a un méchant show pour vous, sincèrement, un invité que j'avais vraiment hâte d'avoir, que j'étais vraiment excité, mais avant de passer, parce que j'aime ça un peu teaser le public qui nous écoute, comment ça va les boys? On a Benjamin et Hugo cette semaine en tant que Flo, ça va bien?
Ben oui, toi, ça va bien, mon Sam?
Yes, ça va super bien. Et je voulais juste vous raconter une petite anecdote avant de commencer. Est-ce que je vous ai dit cette semaine que j'ai pris un Uber et le chauffeur du Uber écoutait le 96.9, c'est GMD.
Ben, voyons donc.
Et je lui ai dit que j'étais animateur là-bas et il m'a dévoilé qu'il reconnaissait ma voix et qu'il nous écoutait tous les dimanches.
Ben, voyons donc.
Donc, s'il écoute en ce moment, j'ai même pas pris son prénom, je sais que c'est un DJ, c'est DJ... DJ Ruff, je pense. DJ.
Oh.
Hey, je massacre potentiellement son nom de DJ, mais j'ai dit qu'on allait jouer de ses chansons dans le show. Donc, c'est un scoop que je donne. On a un DJ international potentiellement qui est.
Incroyable.
Qui va faire ça.
Meilleur d'entendre ça.
J'ai vraiment hâte de dire parler. Mais bref, c'est ça. Je voulais vous raconter un peu ça avant qu'on passe à l'invité. Je voulais vanter qu'on était célèbre devant l'invité en studio en ce moment. La gang, on a Maxime Jean, alpiniste, conférencier, entrepreneur, bref, finalement, réalisateur de films aussi. C'est comme beaucoup trop de chapeaux, ça va bien?
Ça va super bien, c'est pas mal de chapeaux, oui.
C'est pas mal de chapeaux, ouais. En ce moment, tu dirais que c'est quoi ton chapeau principal, juste pour qu'on sache?
Ben, je suis directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, fait qu'un autre chapeau.
Ah oui?
Oui.
Finalement, il arrête plus. Il arrête plus. Il est partout en ce moment. Mais j'adore ça. Mais là, finalement, ça fait combien d'années que tu es directeur?
Ça, c'est tout nouveau.
C'est vraiment tout nouveau?
Tout nouveau. J'étais longtemps en développement économique, surtout ici dans la région, même au niveau de la province aussi, mais c'est tout nouveau. C'est juste avant les fêtes. Je voulais, pour le dernier tiers de ma carrière, faire quelque chose de différent, mais pas perdre les acquis au niveau surtout de la direction générale que j'avais fait dans d'autres organisations. Fait que j'ai dit, tiens, pourquoi pas la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.
Mais es-tu toi-même un chasseur-pêcheur?
Un ancien chasseur, un pêcheur, mais surtout un ancien chasseur qui veut rechasser parce que son garçon y a demandé.
OK! Ah oui,
c'est un petit peu ça qui m'a ramené à ça.
Wow!
Sylvain, c'est la meilleure façon de revenir dans l'emploi, finalement.
Oui.
C'est de famille.
C'est de famille.
Mais nous, on est vraiment là parce que nous, ce qui nous intéressait au maximum, c'est justement le nombre de chapeaux que tu portes, tu sais, conférencier, alpiniste et... C'est le message, moi, qui m'intéressait beaucoup, c'est que si on passe un peu de temps sur tes conférences, tu as fait beaucoup de conférences dans les écoles secondaires. Là, justement, Benjamin racontait avant de rentrer dans l'émission qu'il a déjà vu une de tes conférences. Mm-hmm. Mais je trouvais ça vraiment intéressant, la métaphore, finalement. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, que dans tes conférences, tu parles de réaliser des rêves, c'est bien ça?
Définitivement, il y a plein de messages, peu importe la conférence que j'ai donnée, mais ce qui ressort tout le temps, c'est que chacun peut réaliser ses rêves s'il s'en donne l'opportunité. Puis des fois, s'il est patient, parce que ça peut être long un peu, dans mon cas, ça a été quand même assez long. Là. Assez long, pas tant de monter l'Everest, mais de me dire « je vais pouvoir y aller ».
Oui.
Mettons 25 ans d'expérience en escalade avant de pouvoir aller gravir l'Everest, dans mon cas. Fait que ça a été quand même assez long.
Non, c'est une belle leçon, mais les jeunes, ils doivent quand même assez... Tu sais, la réaction des jeunes dans les classes, justement, durant des conférences, est-ce que les jeunes doivent capoter? Tu sais, c'est quand même anodin, tu sais, quelqu'un qui a monté l'Everest, même si de plus
c'est
en plus...
C'est pas anodin, mais oui.
Ouais, ouais, mais OK, oui, c'est pardon. Merci.
Comment on pourrait dire? On n'a pas toujours les réactions, mais je me souviens d'une fois, j'avais été à Fermont. Donner une conférence dans l'école là-bas. Et un jeune m'avait réécrit pour me dire qu'il avait le goût de réaliser son rêve, puis lui, il faisait du motocross.
Oui.
Fait que s'il a pu transposer l'Everest dans un motocross, ben, il faut croire que le message est passé. Fait que ça, c'est un qui m'a écrit, mais combien d'autres m'ont tout simplement pas écrit, mais qui se sont dit « je vais réaliser mon rêve un jour ». Lui, ce qu'il me disait, je veux faire de la compétition, puis tu m'as donné le goût d'aller plus loin.
Pour vrai?
Ouais. Everest, basic à gaz,
c'est la même chose. C'est la même chose. Peut-être qu'il va monter l'Everest en basic à gaz.
Il pourrait l'essayer, mais je pense qu'il va avoir des petits problèmes.
Oui, c'est un peu dangereux, finalement. Là.
Peut-être.
Donc, finalement, le nombre... Tu as fait combien de conférences?
À peu près 1100. Il faudrait que je les recompte, là, mais 1100. À peu près une centaine par année si on fait une moyenne sur les 11 ans. C'est beaucoup. Parce que la conférence... J'avais donné une conférence sur le métier de conférencier à des jeunes dans une école, puis je leur disais, vous pensez qu'un conférencier, ça fait quoi? Fait que là, ils m'ont sorti toutes sortes de choses, là, dont la conférence. Ben, j'ai dit non, la majorité du temps. Ils ne comprenaient pas. J'ai dit, c'est dans son auto ou dans une chambre d'hôtel. Mais c'est dans son auto 85 % du temps. Fait que c'est beaucoup, beaucoup. Ça a l'air une centaine par année, ça n'a pas l'air beaucoup, mais comme ils ne sont pas à côté de chez nous, ben, je me souviens d'une, j'ai fait un aller-retour à Chibougamau.
Oui.
Je voulais pas recoucher là dans une chambre d'hôtel. Ben, je suis parti le matin, je suis revenu le soir en voiture. C'est 6 heures aller, 6 heures revenir, peut-être 1h30, 2 heures la conférence. Là. Fait que c'est de l'ouvrage.
Finalement, c'était vraiment un emploi à temps plein. Là.
À temps plein. C'est ce que je faisais. Puis au travers de ça, ben, j'allais gravir des montagnes ou faire différents périples. J'ai fait, dans le fond, 3 films pour les grands explorateurs. Un sur l'Everest, un sur le K2, deuxième sommet du monde. Puis le troisième, ben, je me suis dit pourquoi je l'ai. Fait que j'étais allé aux îles Galapagos. Fait que j'ai fait autre chose. Mer et montagne, c'est pas mal mes deux passions.
Oui.
Fait que c'est là que je suis allé en 2011, si ma mémoire fait pas défaut, tourner un film aux îles Galapagos.
Bordel.
Ça avait-tu rapport avec l'alpinisme?
Oui. Non, pas en tout. J'ai été filmé vraiment aux îles Galapagos. Je suis allé filmer. Ben, au début, je voulais faire naturellement un film, comment je dirais, quand on passe d'un film d'expédition, quand tu vas en montagne, si tu as tout filmé du point A au point B, après ça, tu peux faire un film, puis le mettre dans l'ordre ou le désordre, le travailler du moment que tu as à peu près tous tes moments importants. Mais aux îles Galapagos, on va filmer quoi? J'ai dit, je vais aller filmer, dans le fond, j'ai fait un film sur les gens qui vivent là-bas, pour être un peu différent de ce qui avait été fait avant. J'avais pas les budgets de National Geographic ou de Discovery Channel, donc j'ai dit, je vais aller filmer une petite équipe avec un budget d'à peu près 30 000 $ et non pas 10 millions. Donc, comment je fais pour être différent? J'ai dit, je vais aller filmer les gens. Il y a 4 îles habitées là-bas. Fait que je vais aller filmer les gens, c'est à peu près à l'époque, c'était 30 000 de population, puis voir qu'est-ce que le touriste fait sur ces gens-là, puis voir si c'est un beau modèle touristique. Fait que c'est une approche différente. Les gens me demandaient, il n'y aura pas d'animaux? J'ai dit, les animaux sont partout. Ce ne sont que des animaux qu'on voit dans le film. Oui, les gens aussi, là. Mais les animaux sont en ville, sont partout. C'est une otarie qui traverse la rue, c'est pas un chien. Tu veux filmer des tortues? On avait été à l'autre bout complètement des îles.
Oui.
Filmer des tortues marines sous l'eau. On n'en a pas eu une. Puis quand je suis revenu le lendemain, on avait une petite journée de repos en avant de l'hôtel. C'est des petits hôtels, là. Il n'y a pas de chaîne d'hôtel et tout ça là-bas, ni de chaîne de restaurant. Mais on est parti avec la caméra d'une main. Les palmasses dans l'autre, on est allé juste voir en avant, j'ai tout filmé mes tortues en avant de l'hôtel. Fait que t'as pas besoin de t'éloigner, tout est proche.
Ça prend plus d'efforts pour pas filmer d'animaux, dans le fond. Là.
C'est à peu près ça.
Ah oui.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est de quoi? Je demande vraiment, tu sais, le nombre de, justement, de choses que t'as réalisées. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais que tu voulais aller dans cette voie-là, vers la nature, l'alpinisme, réalisation de films?
Pas du tout. J'appelle ça les hasards de la vie. Dans ma vie, il y a avant et après l'Everest. Moi, je voulais juste aller gravir une montagne. C'était les livres que je lisais quand j'étais jeune. C'était mes héros de jeunesse. Je voulais gravir une montagne. Je suis allé la gravir. Et on avait amené une caméra. En réalité, on nous a donné 2 caméras pour aller filmer les premières générations de HD. Puis c'était des caméras quand même assez volumineuses. pas tant que ça, mais si tu compares à ce qui se fait aujourd'hui, c'était quand même assez gros. Puis je me souviens de m'être ostiné avec un des compagnons de cordée, Claude Saint-Hilaire, qui était avec nous autres sur l'Everest. Ouais. Claude me disait, je veux monter en haut, je veux qu'on filme. Puis moi, je disais, je veux une photo de moi au sommet, pas un film de moi jusqu'à la moitié de la montagne. Autrement dit, si ça nuit à l'ascension, bon, on ne filmera pas. Puis je ne me suis pas posé, mais tant que ça ne nuit pas. Puis finalement, Claude a insisté, puis une chance, parce que quand on est revenu, ben, personne ne voulait s'occuper des images. C'est là que j'ai décidé d'en faire un film. Puis finalement, c'est ça qui m'a amené à la conférence aussi, indirectement. Est-ce que je voulais donner des conférences? Pas en tout. Je détestais parler en avant de la classe quand j'étais jeune, oui. Puis je le dis souvent aux jeunes, si moi je détestais, vous êtes capable de le faire. Mais aller parler de quelque chose qu'on a vécu, qui est notre rêve de jeunesse, qu'on a filmé, qu'on connaît bien comme sujet, c'est pas la même chose. T'sais, j'irais pas parler de n'importe quoi, là, mais ça, ça m'intéresse.
Est-ce que c'était un des premiers films, justement, qui a été fait sur l'Everest? T'sais, ça avait-tu déjà été fait avant? Ou?
Il y en a quand même quelques-uns. Il y a le film IMAX là, qui avait été fait. Okay. Il avait monté
même avant, OK.
Oui, il avait monté la caméra IMAX, là, mais il n'y avait pas les mêmes moyens que nous autres. Une caméra est immense, là, avec un film en... Je ne me souviens pas de la grosseur du film. Je le montre, mais on était à radio, en tout cas. C'est gros. Mais bref, il avait monté une caméra. Fait qu'il y en a déjà eu d'autres, mais celui-là était le mien. Puis l'année qu'on était là, il y avait Discovery, qui était une équipe de Toronto, qui était là, qui ont filmé. Puis mes images du sommet étaient meilleures que les leurs. Il était vraiment bien fait. On a pris le temps de filmer. Il faisait beau. C'était stable. On a vraiment un très bon film qu'on a fait. Fait que c'est ce qui m'a donné le goût au film. Dans le fond, je me suis lancé là-dedans sans trop savoir. J'ai un bac en finance. J'ai pas étudié en cinéma.
C'est vrai? OK.
Fait que j'ai dit, on va aller tenter ça. Puis finalement, en ayant les bonnes personnes autour, en ayant trouvé un bon monteur vidéo, j'ai un ami à moi qui compose la musique des films. Donc, tout ça a été mis ensemble. Puis ça a donné des films au fil des années.
OK. Donc, finalement, c'est ça que tu veux dire par « il y avait un avant », que là, c'était le bac en finance. Est-ce que tu travaillais finalement dans une institution financière?
Je finançais des entreprises.
Ah, ben voyons.
J'ai fait ça. Après ça, je suis allé monter l'Everest. Je ne suis jamais retourné. J'ai pas eu le temps.
Ah oui?
J'ai pas eu le temps. C'est les hasards de la vie. En réalité, il y a deux personnes m'avaient appelé quand je suis revenu de l'Everest. Il y avait quelqu'un qui me parlait du défi de l'entrepreneuriat jeunesse au gouvernement du Québec. M. Riverain qui m'a téléphoné parce qu'il connaissait mon père. Il m'a offert de donner des conférences que je ne visais pas. Puis il m'a donné mon premier contrat. J'avais eu également un appel des grands explorateurs. Mais j'avais pas de film encore, puis je trouvais que c'était un gros morceau. J'ai dit non la première année. J'ai fait le défi de l'entrepreneuriat, puis par la suite, je suis revenu avec les grands explorateurs. Fait que c'est ce qui m'a donné 1100 conférences en 11 ans. Ça a l'air beaucoup ou pas beaucoup. Ça dépend des gens, comment on le voit, mais c'est énorme. Mais je l'ai fait, ben, j'avais des réseaux. C'est pas moi qui le fais seul. Moi, ma job, c'est d'aller donner les conférences, de l'ajuster selon les sujets. Puis le reste du temps, ben, je savais, les grands explorateurs me donnaient l'horaire de l'année.
Oui.
Puis le défi de l'entrepreneuriat, c'était avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Fait qu'on me donnait l'horaire. C'est eux qui l'organisaient là, directement, localement. Puis j'avais juste à me présenter à l'heure dite, puis à donner ma conférence.
Mais ça, c'est fou. Fait que finalement, justement, là, tu montes l'Everest. Après ça, ben là on parle comme si ça s'est fait en un claquement de doigts, là. Mais là, tu sais, t'as monté l'Everest, t'as redescendu. Et là, après ça, justement, tu commences à faire des conférences. Mais comme tu dis, tu parlais pas nécessairement devant la classe. T'étais pas le genre de personne qui aimait ça, faire ça. Fait que finalement, t'as dû développer rapidement tes aptitudes pour commencer. Tu sais, c'était ta nouvelle job directement. Là.
Directement. J'ai pas eu le choix de m'ajuster. Puis... même pire que ça, c'est que j'étais dans des salles, mettons que j'allais faire un congrès de je sais pas, l'ordre de je sais pas quoi, là, bref, on va donner une conférence à une entreprise ou à une organisation. J'étais assis dans la salle, puis là, quand on me présentait, je me levais, puis les gens au début me disaient hein, « je pensais pas que c'était toi ». Le conférencier, puis, je le prenais personnel, je dis que j'ai pas le profit de l'emploi, puis j'ai posé la question, pourquoi c'est pas... Ben, on dit, écoute, t'es tranquille, tu parlais pas tant que ça, puis c'est vrai que je suis encore de même aujourd'hui. Si on me met dans un groupe où ça parle fort, je vais m'asseoir et je vais les écouter. Fait qu'on dirait que dans ma tête, pour être conférencier, il fallait être extroverti. Je dis pas que je suis introverti, mais je suis pas extroverti, ça c'est sûr. Fait que j'étais plus tranquille, fait que je les écoutais.
Est-ce que le fait d'avoir monté une grosse montagne puis de faire des expériences comme ça, ça t'a fait relativiser en disant, ben écoute, si moi je suis capable de monter ça puis de partir à des expéditions comme ça, c'est pas si grave au final de parler devant des personnes aujourd'hui tranquilles, au chaud, dans une école?
C'est moins risqué.
Oui, c'est ça, c'est en perspective.
Oui, on peut relativiser, effectivement. Tout. On est capable de faire des grandes choses si on s'en donne les moyens. Puis comme je dis, comme pour moi, c'était pas naturel. Ça l'est devenu. Après, on sent, je pourrais dire que je suis rendu pas pire. Non? Puis je disais aux gens que, tu sais, quand t'es rendu à ta centième, tu disais, hey, là, je maîtrise pas mal la chose. T'arrives à la 200e, tu dis, non, là, je la maîtrise. À la 500e, tu fais, wow. À la 1000e, tu joues avec ta foule, même s'ils sont 1000. Puis probablement que si je n'avais fait 5000, je maîtriserais encore plus. Fait que c'est une, tu sais, on s'habitue à tout.
Même si c'était pas tout le temps la même conférence à chaque fois.
Oui, c'était même. Puis même si c'est la même, c'est pas le même public.
Ouais, c'est
puis
vrai.
Dans les grands explorateurs, il faut comprendre qu'à l'époque, on en faisait Gatineau et Trois-Rivières, on en faisait trois dans la même journée, d'après-midi puis le soir. C'est 2 heures. C'est un show de 2 heures. Le film dure 1h20. Tu fais la narration tout le long sur la scène. Dans l'entracte, tu parles de ton film avec les gens. Fait que c'était 2 heures non-stop, 3 fois de suite dans la même journée. C'était trop. La troisième, je peux dire que je serais allé. Puis en plus, on avait conduit pour se rendre jusque là. On ne couchait pas là nécessairement. Fait que là, tu te dis à troisième, je serais allé me coucher. 2, je l'avais déjà fait, mais 3, c'est beaucoup. Mais ils ont payé le même prix, ils ont le droit au même show. 1 heure entre chaque pour vider la salle, remplir ça de nouveau monde. Puis à troisième, ben, t'as refait, puis tu te prends un petit café avant. Puis pas 2, parce que en plein milieu, tu peux pas aller aux toilettes.
Oui, c'est ça. C'est narration. 2 heures, c'est long. Hein, c'est...
Mais on prend pas 2.
est-ce que pendant, justement, là, tu as fait ça pendant 11 ans, je t'ai entendu dire hors honte que tu continues à faire des expéditions un peu entre, mais est-ce que tu avais comme une genre de... Je sais pas comment dire, une genre de pression, justement, que tu sais, tu avais fait l'Everest, là, tu faisais des conférences sur l'alpinisme. Est-ce que tu avais une pression de devoir accomplir de plus en plus de montagnes parce qu'il fallait que tu gardes ton statut d'alpiniste ou tu...
Curieusement, non. Parce que oui, j'ai fait des conférences sur plein d'autres sujets, mais l'Everest revenait tout le temps. Finalement, je donnais des conférences dans les écoles. J'avais 3 sujets, les Galapagos, l'Everest, le K2. Puis on me disait, ben, on va prendre l'Everest. Fait que l'Everest est toujours revenu. Puis même quand j'ai fait le film des Galapagos, on me présentait comme quelqu'un qui a gravi l'Everest. Avec un bout de film, il a fait les plus hauts sommets. Puis on revient sur... Fait que c'est toujours revenu. On dirait que c'est... Mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, l'Everest, c'est tout le monde connaît.
Ben oui, c'est ça.
La plus haute montagne, c'est la plus connue, c'est elle qui a le plus de littérature. T'sais, si tu veux lire des choses sur l'Everest, il y en a en masse, mais si tu veux lire des trucs sur le 3e sommet du monde...
D'ailleurs, ça passe,
connaissez-vous le nom?
La 3e?
Ouais.
Ben, je pensais que c'était K2.
Ben, K2, c'est le deuxième.
Ah, okay.
Le troisième. Je l'ai demandé souvent en conférence. Ça m'est arrivé que quelqu'un me le dise.
C'est-tu mon right?
Non.
K3.
Ça doit être dans la main.
C'est le mont Lawson.
OK.
Le quoi, le mont Lawson?
Lawson.
Ah, Lawson, OK.
C'est blague. C'est le Kanchenjunga.
Okay.
C'est pas très connu, mais c'est le 3e sommet du monde. Fait que si tu veux aller gravir le Kanchenjunga, ben, tu peux trouver quelques livres, mais tu n'en trouveras pas des milliers. Là. Alors que sur l'Everest, il y en a.
C'est quasiment autant dangereux de monter celui-là que monter l'Everest?
Plus.
Oui, c'est ça que j'allais s'en venir là-dessus. Là. Je sais pas s'il y avait plus une section tantôt là-dessus.
Non,
mais c'est ça, l'Everest, techniquement, sur des chiffres, c'est lui la plus haute. Mais comme le K2, tu m'avais dit que c'était beaucoup plus dur à monter. Là.
Ben, c'est plus dur. C'est 239 mètres de moins que l'Everest. Fait que c'est
négligeable.
C'est pas une très grande différence. Mais c'est la montagne la plus... C'est une des montagnes les plus dangereuses au monde. Moi, je connais 3 personnes. Quand je dis connaître, c'est des gens que j'ai parlé assis, puis même un ami qui sont morts sur cette montagne-là.
Oh.
J'en connais en réalité 3 sur le K2 directement là, au fil des années. Quand on était allé en 2006, on partageait le camp de base avec un Français, ouais. Hugues Daubared. Hugues, je l'ai connu à l'Everest. Il m'avait prêté son téléphone satellite. J'appelais ma femme avec.
Ouais.
Et par la suite, Hugues m'a appelé quand on partait au K2. Il a dit, on est 2 Français, on aimerait ça partager le camp de base. Fait qu'on s'est côtoyés tout le long, mais on était indépendants sur la montagne. Ben, Hugues est retourné 2 ans après sur le K2 en 2008, puis il est mort.
Oh.
Fait que, tu sais, je connais Serge de Sureau, le pompier de Montréal, qui malheureusement est décédé sur le K2.
Okay.
On avait fait une émission à RDI Matin Express ensemble. Nous, on partait sur le K2, lui partait à l'Everest, et après ça, lui est décédé sur le K2. Puis un troisième, Chartier, qui est un urgentologue que j'ai connu un peu moins, mais à l'Everest, il y avait 2 Québécois en 2004. Fait que lui était là et allait gravir l'Everest. Il n'a pas, malheureusement pas atteint le sommet. Et il est allé sur le K2, il est décédé. Fait que j'en connais 3 Québécois. 2 Québécois puis un Français qui sont décédés sur le K2. Fait que c'est une montagne
puis,
très dangereuse.
Là-dessus, est-ce que ça t'a un peu fait peur par la suite de continuer tes expéditions ou tu t'es dit, ben écoute, moi je vais prendre mes précautions, ça va redoubler de prudence ou des choses comme ça?
Ben, ça m'a fait peur. Non, ça m'a fait prendre conscience que le K2, je l'ai essayé, puis c'est ben en masse que j'y retournerai pas.
Okay.
C'est la première fois que je partais en montagne, que je serrais mes enfants dans mes bras. quand je suis parti sur le K2, puis je me disais, oh boy, ça se peut, je ne revienne pas. Ouais. Alors que sur l'Everest, j'étais en confiance. Quand je suis allé au Tibet sur le 6e sommet du monde, je suis allé 2 fois, je me sentais en confiance, mais sur le K2, je n'étais pas sûr de rien.
Ah oui. Donc,
je suis allé, je l'ai essayé. Puis je voulais voir, est-ce que c'est plus dangereux que je pense ou ça l'est moins? Ouais. Tu sais, des fois, on exagère c'est les choses. Exagère, ouais. Puis finalement, non, ça l'était plus celle-là. Fait que je suis allé, je l'ai essayé, puis non.
Mais jamais, c'est quoi que tu dirais qui drive le monde? C'est quoi l'intérêt d'aller faire cette montagne-là? Si, tu sais, c'est le but de l'exploit? C'est
pas. Ben, chacun a ses raisons. Nous, on est allé parce qu'on venait de faire l'Everest, on avait fait la plus haute. On s'est dit aussi bien de faire la plus dure. Mm-hmm. Rendu là, tant qu'être parti. Puis en même temps, ben, l'Everest, c'est loin d'être facile. C'est pas une montagne facile, mais j'étais tellement bien préparé. Puis la météo a collaboré, la santé était là. On était tellement bien préparé physiquement, psychologiquement, puis même au niveau des connaissances, puis techniquement, que ça a été parfait. L'expédition s'est déroulée exactement comme on voulait. Fait qu'on s'est dit, est-ce que le K2, c'est pareil? Il y en a peut-être qui étaient mal préparés. C'était pas. Mais le K2, c'est une montagne qui a tué. L'année qu'on était là, moi, j'ai attrapé une pneumonie. J'ai pas pu atteindre le sommet. Mario a essayé une dernière tentative, mais tout seul, il était découragé. Il était pas seul, il était avec un Népalais. Mais il s'est dit, bon, je reste pas là. L'équipe était fait qu'il est revenu. Moi, je pense que la pneumonie nous a sauvé la vie parce que cette année-là, il y a 8 personnes qui ont atteint le sommet, puis il y en a 4 qui sont pas revenus. C'est 4 Russes. Et les 4 Russes étaient dans les meilleurs grimpeurs au monde. Fait que, tu sais, le K2, c'est pas... C'est pas est-ce que je suis. La montagne fait pas la différence. C'est toujours des chutes de pierre, des avalanches. Puis il y en a qui tombent aussi, naturellement. Soit une corde qui a été coupée par une chute de pierre, tu prends mauvaise, tu viens me faire un rappel, puis hop, t'es parti. Là. Fait que c'est un petit peu ça. C'est extrêmement dangereux.
Fait que c'est pas juste un manque de précaution, c'est vraiment de la malchance, tout simplement.
Nous autres, on appelait ça, puis on ne l'appelle plus comme ça depuis que les Russes sont morts. On dit que c'était joué à roulette russe. on dit les avalanches tombent. Ils tombent une chute de pierre, c'est ce qui est le plus dangereux. L'avalanche, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais si tu es assez expérimenté puis que tu grimpes le long des rochers, tu l'entends venir, tu as le temps de te planquer. Mais la chute de pierre, tu entends quelque chose siffler à côté, elle vient de passer. Donc là, il y a un Russe qui en a reçu une sur le casque. Il n'est pas mort, là, mais...
À vitesse que ça doit aller. Là.
Il s'est fait maganer. Là.
Hey, c'est malade. Mais est-ce que tu as vu, ça me fait penser, il n'y a pas quelqu'un justement de l'équipe de Red Bull il y a quelques années ou il y a quelques mois qui a descendu justement en ski le K2. Avez-vous vu ça?
Hein? Non.
Non, hey, vous chercherez ça. Justement, tu sais, c'est quasiment une insulte pour les personnes qui le montent. C'est que tu vois du monde la monter et tu te dis c'est déjà hyper tough. Puis lui, il a monté avec ses skis. Check-moi, en fait, il est allé en hélicoptère.
C'est sûrement pas rendu jusqu'en haut.
Il est peut-être allé en hélicoptère. Là,
ouais.
Ben, l'hélico peut pas aller aussi haut, mais il a probablement monté avec une équipe. Mais il y a une section qui peut se skier. Il faut que tu sois extrêmement expérimenté. Mais il y a d'autres sections, oublie ça. Là. En tout cas, tu peux le faire si tu veux, là, mais tu vas finir à mauvaise place. C'est de l'escalade, c'est du rocher.
Oh,
il y a
beaucoup de
barres. Il y a des barres rocheuses. Fait que c'est des grosses parties qui sont en rocher. Fait que tu peux pas descendre là. Fait qu'il y a peut-être une partie dans le bas qui peut faire. Certaines sections, là, ça s'est déjà fait. C'est pas le premier. Il y avait japonais, il y a un vieux film sur un japonais qui avait descendu cette section-là. Mais quand j'étais là en 2004 à l'Everest, il y avait un spécialiste. Je ne me souviens pas, je pense que c'était un skieur olympique là, qui est allé sur l'Everest, mais il a fini dans une crevasse.
Ah.
Il est pas mort, mais c'est ça.
Il a eu la peur de sa vie.
Mais est-ce que tu dirais justement que les technologies depuis 2004, depuis 2000, les années que tu les as faites, ils ont évolué, que là, c'est un peu plus facile à monter?
Ben, plus facile, non, parce qu'il faut que tu montes, faut que tu montes sur tes deux jambes. Au final, c'est la même chose. Ce qui a évolué, c'est nos connaissances, probablement. Oui. Puis même déjà en 2004, comparativement avant, les connaissances sur l'acclimatation. Comment on s'acclimate? Parce que, tu sais, il n'y a pas d'oxygène en haut. À l'époque, il y allait un peu essai-erreur, puis des fois, il y en a un qui mourait, puis il ne savait pas trop pourquoi. C'est parce qu'il était monté trop vite, c'était un œdème. Aujourd'hui, on a des bonnes connaissances sur tout ce qui est mal des montagnes, tout ce qui peut arriver. Comment doser l'acclimatation? Le corps va s'ajuster au manque d'oxygène, mais en même temps, plus tu grimpes de fois, tu vas t'ajuster plus au manque d'oxygène, mais tu te fatigues en même temps. Fait que c'est où l'équilibre entre la fatigue puis l'acclimatation parfaite? Ça, c'est pas évident, mais nous, on travaillait avec l'Université Laval puis avec un spécialiste, le docteur Dallot, qui est un spécialiste du mal des montagnes. J'ai grimpé d'ailleurs au Tibet avec lui.
Okay.
Wow. Fait que on avait la chance d'avoir tout le volet recherche puis compréhension du mal des montagnes, des médicaments qu'on avait également. Quand les prendre, quand les administrer, quand t'as pas un médecin puis quelqu'un est après mourir, des fois, t'as pas le choix de réaliser. Là. Puis je disais à un moment donné que j'avais vu plus d'œdèmes cérébrales et pulmonaires que mon médecin, non? Parce que à chaque année, on en voit là, des gens qui sont victimes de ça.
Hey, c'est capoté, ça. C'est là que tu vois que ta randonnée dans genre quartier, c'est pas de niveau,
ça,
hein.
Ça fait relativement.
Moi, je fais les loups, puis je suis content, tu sais. Mais genre, c'est vraiment pas le même game. Eh hey, bien, avant de... Parce que justement, après la pause, on aimerait vraiment ça, rentrer dans le sujet de l'alpinisme, tu sais, voir justement c'est quoi ton parcours. Mais avant de faire ça, est-ce que tu pourrais juste nous dire, là, aujourd'hui, comme tu dis, t'es directeur de la Fédération de chasse et pêche, c'est bien ça.
Oui.
Mais est-ce que tu continues à faire de la montagne? Est-ce que ça s'est calmé un peu plus?
La montagne, ça s'est calmé. Je fais de la montagne quand je vois skier à Stoneham.
Okay.
Je fais du ski alpin, fait que ça. Mais je me suis calmé beaucoup. Beaucoup parce que j'en ai fait, bon, 25 ans avant l'escalade, avant l'Everest. Puis après ça, ben, j'ai eu 10 ans d'expédition. Fait que je me suis calmé pas mal. Fait que maintenant, je fais du ski, je fais du surf. Je suis pas terrible en surf, c'est okay. Parfait. À une fois ou deux par année, je viendrai jamais bon, c'est excellent. mais j'ai du fun au bout.
Finalement, là, c'est ça s'est plus calmé. Là, on se met à chasse, on se met à pêche, puis that's it.
Ouais, c'est plus tranquille. Mais j'ai toujours tous mes équipements, puis j'ai jamais dit que j'avais pris ma retraite.
Oh. Ah ouais?
Il y a peut-être un signe là, mais des fois, je me rappelle à quel point c'était dur, en tout cas, du moins dans les très très hautes montagnes, là. Fait que quand ça me tente d'y aller, je me rappelle des fois l'autre côté, dont la dernière fois j'étais au Tibet et je me demandais qu'est-ce que je fais ici. Fait que c'est ça.
Hey, c'est capoté. Ouais, ça m'inspire solide. C'est genre, ouais. C'est littéralement, ben ça, de toute façon, j'allais en parler après la pause, mais c'est tellement le genre d'affaires que j'aimerais faire, mais que je sais pas quoi, comment y aller, comment y arriver. Mais en tout cas, on va en reparler après la pause sur comment je peux potentiellement aller faire le K2 ou je reste à faire les loups.
Le K2.
Et d'aller faire de la randonnée à Charlevoix, Charmez-moi.
On va rester.
On va voir si finalement je vais rester.
Ouais, je vais pas briser tes rails.
Mais ça va sûrement rester à l'Acropole des Draveurs. Hey, nous, on part en pause, on revient dans quelques minutes, vous écoutez le show des Trois Flots.
Vous écoutez le show des Trois Flots.
Et 6h37, c'est toujours le show des Trois Flots, tous les dimanches soirs, bien sûr, de 18h à 20h, sur les ondes de CGMD 96.9, la radio de Lévis. C'est bon. Est-ce que le micro marche de notre bord? Oui. Parfait, on est en onde. C'est est-ce que toi tout va de ton bord?
Oui, bon. Tout va bien. Tout est correct.
Parce que Laurie a beaucoup de pression en tant que nouvelle metteur en onde, mais je trouve qu'elle fait bien sa job.
Ben oui. Mais merci les gars.
Mm-hmm. Mais c'est beaucoup de pression, surtout tu sais, quand tu as juste la pratique une fois par semaine, éventuellement j'ai l'impression que c'est difficile.
Oui, effectivement.
À se souvenir, tu sais.
Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai l'impression qu'on m'entend.
Moi je t'entends.
OK, oui. Parfait.
On est des professionnels.
Oui.
C'est parfait. Je sais comment ça marche.
En studio avec nous, on a Mario. Mario Jean, j'allais dire. Pardon. Je pensais à Mario Cyr, puis là, je me suis rappelé.
Maxime.
On recommence. On a Maxime Jean, qui est alpiniste, entrepreneur, conférencier, actuellement directeur de la Fédération de chasse et pêche de Québec, qui est toujours avec nous. Ça va toujours bien.
Toujours bien.
On n'est pas trop traumatisé avec le problème technique.
Pas du tout.
Ça va.
Il est probablement meilleur que toutes nous. Mais...
Ouais, avec un bon nombre de conférences, je pense que ça gère très bien. Et là, dans le fond, en première partie du show, on parlait justement d'un peu de qu'est-ce que tu faisais, des conférences, des choses comme ça. On a un peu parlé, on a effleuré le sujet de l'alpinisme, de l'Everest, des montagnes. Mais là, on aimerait ça rentrer dans le sujet directement. De comment finalement on se rend à faire l'Everest, comment qu'on va là, en commençant, tu sais. Premièrement, est-ce que tu pensais éventuellement monter cette montagne-là? Tu as dit que c'était un de tes rêves?
Oui, c'était un rêve quand j'étais jeune. Comment on se prépare? Ben, c'est plein de choses. Il faut que le camping d'hiver... L'alpiniste, dans le fond, c'est un mélange d'escalade de glace, d'escalade de rocher, de marche en montagne, de camping d'hiver.
Ouais.
Fait que c'est un petit peu tout ça. Fait qu'il faut que ces sujets-là soient maîtrisés. Maîtrisés parce que camping d'hiver sur l'Everest, il fait jusqu'à moins 60. Tu peux pas improviser. Là. Si tu mets tes bottes en dehors de ton sleeping en espérant les remettre le matin et que tu n'aies pas les pieds gelés, surtout dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'oxygène et que tu as de la misère à te réchauffer, c'est sûr que tu perds les orteils. Donc, il y a des trucs qu'on a pris. D'avoir les chaussons à l'intérieur du sac de couchage, d'avoir, on n'enlève pas tous les vêtements, l'espèce de soute qu'on a pour aller au sommet qui est très très chaud, lui aussi on le met entre le matelas de sol et le sac de couchage, fait qu'il reste au chaud. Fait qu'il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qu'on prend, fait que c'est de faire du camping d'hiver ici, le plus possible, maîtriser les techniques, surtout quand il fait froid, puis de faire de l'escalade de rocher, de l'escalade de glace, maîtriser ses nœuds, maîtriser toutes les choses, parce que il n'y a tellement pas d'oxygène, puis on est tellement fatigué, parce que l'Everest, dans le fond, ça prend 2 mois et demi à gravir cette montagne-là, okay, quand on s'en va là-bas, puis à la fin, on est complètement épuisé. Fait que si t'es nœud, à chaque fois, tu te demandes, c'est-tu ça de mon... C'est-tu ça, ce nœud-là? Faut que tu saches le faire de 2-3 façons différentes, puis maîtriser. Oui. Donc, quand tu fais ton nœud, t'es sûr que quand t'attaches tes souliers, t'es capable de le faire. On s'est tout attaché, on a commencé jeune. Ben, faut que ça soit aussi facile. Fait que c'est tout maîtriser ces techniques-là quand on arrive à l'Everest, parce qu'on peut pas improviser. Il y en a qui le font, mais c'est très risqué.
Donc, évidemment, toi, durant toutes les années avant de gravir l'Everest, tu sais, camping d'hiver, escalade, c'était toutes des passions que tu avais déjà quand tu étais plus jeune?
Oui, j'étais pas équipé comme aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je pourrais y aller puis choisir quelle couleur de sleeping et de qui va, puis l'agencer à mon manteau. Mais à l'époque, je couchais avec un soude de motoneige qu'on appelle, un habit chaud dans un sleeping d'été, parce que c'est ce que j'avais, mais oui. Fait que c'est des choses que je faisais. De l'escalade de glace, j'en faisais. J'ai pris des formations. Okay. Mais j'en faisais avant. On a commencé jeune à se tailler des marches dans des trucs de glace pas loin de chez nous, puis à monter ça tranquillement. Après ça, on a dit, bon, ça serait bien qu'on ait des vrais équipements et aller chercher la bonne technique aussi. Fait que j'ai commencé jeune. Fait que c'est tous ces techniques-là que je me suis mis à maîtriser, à enseigner. J'ai eu une école d'escalade quand j'étais plus jeune aussi.
Ah, pour vrai?
Ouais, à l'époque, à Québec, ici. Quand j'étais à l'université, j'avais ma boutique puis mon école d'escalade.
Ben voyons donc.
Fait que c'est plus spécialisé en sauvetage, mais on faisait l'escalade aussi, on faisait les deux. Fait que des cours qu'on donnait au niveau de toutes les techniques de manœuvres de sauvetage en hauteur, là, on donnait ces formations-là.
Mais est-ce que ça, c'était avant? Parce que ça, c'était une des affaires que je me demandais. Parce que les trois ici, on fait de l'escalade. On en fait depuis quelques années déjà. Toi, tu fais-tu de la roche?
Je n'ai pas fait, non.
OK, c'est bon. Ben, mettons, Ben et moi, on fait de la roche, justement. Et ce que j'ai appris, justement, c'est que la culture de l'escalade est quand même un peu récente à Québec. Fait que, tu sais, est-ce que, justement... Tu sais, le Rock Gym, c'était le premier centre à Québec, de ce que j'ai compris, mais ça, c'était... Le Rock Gym, ça fait pas tant longtemps que c'est ouvert, mais semble comment qu'on faisait pour en faire avant, c'était...
Ben, le Rock Gym, il a fêté son 25 ou son 30e. Ça fait quand même assez longtemps. Puis à l'époque, il y avait une communauté. À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait une boutique qui s'appelait La Montagne en Ville, qui était après ça où il a ouvert le Rock Gym. Il faudrait que je regarde. Là, on a fêté le 20e, ça, j'étais là. Puis le dernier, je me demande si c'est pas le 25 ou 30. Là, ça sera à vérifier. Mais bref, ça fait quand même assez longtemps. Il y avait une communauté, mais elle était plus restreinte, si on veut. Aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé avec les centres intérieurs. Mm-hmm. Mais il y a quand même, ça fait longtemps qu'on a une culture de montagne. Puis moi, dans le temps, je travaillais dans ce domaine-là. Fait que c'est avec ma boutique. Puis avant ça, justement, pour François Guy Thivierge.
Oui! Ouais, François Guy, d'ailleurs, qu'on reçoit dans quelques mois. Je lance le scoop, mais François Guy Thivierge qui va
venir. Mais coudonc.
Alors, on a travaillé ensemble dans le temps, fait que ça fait longtemps. C'est une belle communauté, si on veut, de gens. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus populaire que jamais avec les centres intérieurs. Mm-hmm. Mais il y a une différence entre grimper à l'intérieur, c'est une chose, c'est bien. Ça apprend les mouvements. À l'extérieur, surtout si on commence à faire du premier de cordée, là, il faut trouver sa voie, trouver la route, c'est moins facile. En glace, ben, c'est autre chose. C'est une autre technique complètement. Fait qu'il faut maîtriser un peu toutes ces techniques-là.
OK, finalement, fait que, ça prend plusieurs années d'expérience. Et, tu sais, comment... Là, je sais même pas comment formuler ma voix jusqu'à l'Everest. C'est comment qu'on sera, finalement, de passer de faire ça, mettons, au Québec, à éventuellement gravir la plus grosse montagne. Tu sais, ça doit se faire petit step par petit step.
Ben, il faut passer naturellement, je dis toujours quand on fait un sport, ce qui est le fun, c'est d'aller chercher, quand on prend de l'expérience, quelqu'un qui en a plus que nous autres, qui va nous amener à aller encore plus loin. Mm-hmm. Après ça, il y a des montagnes, il y en a dans l'Ouest canadien, il y en a en Amérique du Sud. Fait que c'est d'aller de plus en plus haut puis de voir comment on se comporte. Parce qu'il y a quand même des barrières au niveau physiologique. Là, j'ai un ami, moi, qui faisait de l'escalade plus jeune, puis on avait certains projets de haute montagne, puis lui, passer 4000 mètres, ça marche pas. On ne sait pas pourquoi, c'est physiologique, son corps n'est pas capable de s'adapter. Fait que ça, c'est plus rare, mais ça arrive quand même. Fait que c'est de monter de plus en plus haut, puis de voir qu'est-ce qu'on aime, puis c'est là qu'on prend de l'expérience. C'est à force d'en faire grimper dans un centre intérieur, attaché. Il n'y a pas de risque sur une montagne, mais il y a des avalanches, il y a du froid, on peut se perdre. La météo ne collabore pas tout le temps, fait qu'il faut apprendre à dealer avec tout ça. Moi, je comparais, c'est comme quand j'ai traversé l'Atlantique en 2002, je compare à ça, quelqu'un me demandait de comparer avec la montagne, ben je disais c'est deux expéditions engagées. Quand tu es en plein milieu de l'Atlantique, si tu es tanné, tu peux pas t'en aller parce que 2 semaines de voile jusqu'au coin d'un côté ou de l'autre pour finalement débarquer du bateau. La montagne, par contre, tu peux toujours descendre s'il fait beau, là. Fait que t'es un peu moins. Les deux sont engagés, mais différemment peut-être un peu. Mais c'est de faire des trucs engagés comme ça de plus en plus, où on voit comment on réagit, on voit, puis bien connaître naturellement les gens avec qui on va grimper, parce qu'on confie notre vie à ces gens-là. Mm-hmm. Tu sais, si t'es après grimper en premier de cordée, puis tu te revires, puis ton chum tient un peu à corde parce qu'il est après texter quelqu'un, pas que c'est déjà arrivé, là, je fais juste...
Ouais, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Mon chum, ben, Émilien.
Ah ouais?
Émilien, pendant qu'il m'assurait...
Il textait, je faisais...
Ah, j'ai été en sacrant.
Non, c'est ça. Ouais. Même quand ça fait plusieurs fois que tu y vas avec la même personne, mais qu'elle fait ça juste une fois, je trouve que c'est de trop. Ouais. Là, tu devrais tout le temps ta vie, faut pas la négliger, puis se dire, ah ben, on est habitué de faire ça, là, tu sais. Puis j'imagine que même après avoir monté l'Everest une fois, la deuxième fois, tu vas pas dire hey, « je vais faire ça plus relax, puis je vais pas trop relax. Checker mon ami. »
Ben, c'est que quand une chute arrive, c'est faut que tu sois prêt, parce que c'est très rapide. Puis il faut que tu aies confiance dans les gens. Il faut que tu aies confiance, ne serait-ce que quand tu grimpes ici puis quelqu'un t'assure. Puis là-bas, il faut que tu aies 100% confiance dans les gens avec qui tu es, parce que si lui... Je vous donne l'exemple, ça peut être lui qui est en difficulté, mais si lui dit pas à un moment donné qu'il file pas, il commence à avoir des problèmes, soit un œdème cérébral ou pulmonaire ou peu importe. Il commence à avoir certains symptômes, puis il ne le dit pas. Puis il continue à grimper, ça peut devenir dangereux et pour lui et pour toi. Parce que si jamais il ne file plus, puis il n'est plus capable de redescendre, tu fais quoi? Tu restes avec? Tu vas mourir ou tu le laisses là? Fait que c'est important d'avoir confiance à des gens, les gens avec qui on grimpe tout le temps. C'est vraiment une cordée. C'est important ici, mais ça l'est encore plus là-bas, parce que tu vas avoir confiance qu'il ne poussera pas la machine s'il sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mm-hmm. Il n'y a pas de honte à dire « ça ne marche pas, regarde, on va redescendre un peu puis on verra demain. » Là. C'est dans mon cas, quand j'étais sur le K2, j'ai attrapé une pneumonie. Je le voyais à première montée qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Fait qu'on a refait une deuxième, puis là, j'ai dit « on avait un médecin, heureusement. » J'ai dit « tu vas m'ausculter parce que il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai de la misère à avancer, j'ai de la misère à respirer. Il y a quelque chose qui... » Puis effectivement, j'avais un début de pneumonie...
Puis si tu t'avais pas écouté, ça aurait pu...
Est-ce que je serais ici aujourd'hui? Ouais. J'en doute fortement. Là, parce que t'as besoin de... J'avais un poumon, c'est pas compliqué. Là, il faisait à l'ancienne, là, il cognait sur mes poumons. Là. Ouais. Puis tu sais, quand t'as un truc qui sonne plein, là, j'avais un poumon qui sonnait plein. Plein de liquide. Ça fonctionnait, il me manquait un moteur. Là.
Ouais.
Fait que c'est ça que j'avais senti quand je grimpais, que la vitesse marchait pas. Là. J'avais ralenti beaucoup.
Ça, c'est des signes que j'imagine, si tu étais moins expérimenté, tu aurais peut-être complètement ignoré. Là, fait que...
Ben oui, puis c'est dur de les sentir parce qu'en haute montagne, tout le monde tousse. L'air est très sec, on respire deux à trois fois, mettons deux fois plus à la minute que les autres. Fait qu'on irrite, naturellement toute la gorge. Puis c'est jamais bon. Fait que tout le monde tousse en montagne. Okay. On appelle ça, dans le coin de l'Everest, on appelle ça la Kumbu. Kumbu pour la vallée du Kumbu. Là. Kumbukov. Fait que tout le monde tousse. Fait que là, je tousse-tu parce que j'ai quelque chose ou je tousse parce qu'il faut se connaître comme il faut. Fait que tu sais, on disait tantôt l'expérience qu'on a besoin, ben moi c'est drôle, même plus jeune, je savais quand j'allais avoir un rhume ou une grippe, probablement la veille.
OK.
Juste par moi, je file moins, j'ai moins d'énergie. Pour moi, je vais être malade.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, bien se connaître. Bien se connaître au niveau de nos capacités, mais également de bien réagir. Fait que sur le cas 2, j'avais remarqué tout de suite que j'avais quelque chose qui ne fonctionnait pas.
Ils disent de toute façon, t'es comme obligé. Mais semble pour aller monter l'Everest, t'es obligé d'avoir des montagnes d'expérience. C'est-tu encore le cas ou?
Ben, ça dépend. Ça devrait être le cas, mais c'est pas toujours le cas.
Ah, pour de vrai?
Parce qu'il y a des gens qui vont grimper. Il y a un excellent livre qui avait été écrit sur Tragédie à l'Everest en 1996. C'était des expéditions commerciales. Les gens se font guider. Ils ont la forme physique, mais pas l'expérience. Fait qu'ils compensent avec des guides qui vont leur tracer la route.
Okay.
Puis leur disent quoi faire. Ça va bien jusqu'au moment où il se met à faire moins beau, qu'il y a une tempête qui monte, puis que là, ben, tout le monde est à risque de mourir. Ben, ce qui est arrivé en 96, c'est que les deux guides sont morts avec leurs clients.
Oh.
C'est ça là-dessus qu'ils ont fait un film sur cette histoire-là?
Oui, il y a eu un film de fait, mais oui. Le livre est encore meilleur. C'est Tragédie à l'Everest. Okay. Je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas lu. Mais ça explique un peu c'est quoi quand tu n'as pas d'expérience. Ce qui sauve sur la montagne, c'est l'expérience. Et dans ce cas-là, un des seuls qui a survécu, ou en tout cas, un de ceux qui a survécu, c'est un journaliste qui allait faire un papier sur les expéditions commerciales, puis lui, il avait beaucoup d'expérience.
OK.
Fait que lui, il a réussi à s'en sortir.
Finalement, c'est pour ça que les personnes qui doivent monter l'Everest, plus, justement, les personnes qui font ça le plus jeune possible, tu dis, justement, t'as pas assez d'expérience pour faire ça.
Ça dépend, je dirais. Ben, l'âge idéal, c'est l'âge à laquelle je l'ai fait. parce que j'avais 35 ans.
Ouais. Mmh.
J'ai vu des gens le faire à 60, puis ils l'ont eu, mais ils avaient les moyens de se le payer, puis c'était une expédition commerciale, ils l'ont eu. Mais ça a dû être tough en tabarnouche. Si c'était dur à 35, j'imagine qu'à 60 quelques années, c'est pas évident. Puis 35, pourquoi 35? Parce que quand j'avais 25, je faisais tellement de jogging que je serais arrivé le premier au camp de base, premier au camp 1, sûrement le premier au camp 2, mais peut-être pas au camp 3. Alors que quand je suis à 35 ans, j'ai pris le temps de me calmer, de ne pas grimper trop vite, de prendre le temps. C'est un marathon qui dure 2 mois et demi. Fait qu'il faut que tu gardes ton énergie jusqu'à la fin. Fait que c'est ce que j'ai su faire peut-être à cet âge-là. Puis j'avais assez d'expérience aussi à ce moment-là. Puis probablement dans le bon âge pour l'acclimatation aussi. Parce que curieusement, on ne sait pas pourquoi, mais une des choses qu'on gagne en vieillissant, c'est qu'on s'acclimate mieux.
Okay.
Bon, je pense parce qu'on prend plus notre temps.
Okay.
Mais en tout cas, il y a probablement d'autres facteurs physiologiques, mais c'est une chose qu'on gagne. Fait que quand t'es jeune, t'es plus susceptible d'avoir des problèmes liés à l'altitude.
Ok, c'est bon.
Fait que c'est une autre chose. Fait que 35 dans mon cas, c'était parfait.
Puis est-ce que justement, là, pour revenir un peu sur ton parcours de comment t'es arrivé là, là tu parles de faut que t'aies une équipe que t'as confiance. Est-ce que les personnes avec qui t'es allé faire l'Everest, c'est des personnes qui étaient allées faire plusieurs hautes montagnes, de la haute montagne avec eux avant de leur dire hey, on fait-tu l'Everest tout ensemble ou finalement. L'Everest, c'était toujours le même objectif. Ça a toujours été la même équipe, vous saviez.
Curieusement, je les ai connus un peu quelques années avant seulement pour l'Everest, mais par personne interposée. Des gens qui m'ont dit moi, je grimpe depuis des années avec Mario Dutille et Claude Saint-Hilaire. Donc, il me dit avec Mario, je grimpe depuis des années. Je pense que tu vas bien t'entendre avec. Tu devrais y parler. Fait qu'on s'est connus, mais c'est un trio. Puis un trio qui a toujours marché. Parce que j'ai vu des gens se chicaner sur l'Everest, j'ai vu des gens pleurer, des gens qui ne se parlent plus. Puis nous, non seulement on se parle encore, mais on se voit chaque année. À chaque 16 mai, on fête l'Everest. Oui. Là, cette année, ça va être le 20e. Fait qu'on, à chaque année, on se voit, puis on est toujours on se parle. J'ai parlé à Mario pas plus tard qu'hier matin. Fait que bref, on se parle régulièrement. Fait que ça, c'est super important. Fait que oui, je les ai connus peut-être sur le tard. Mais en même temps, c'est un trio. Puis en même temps, un trio, ça aurait pu pas marcher hein, parce qu'on est trois. Est-ce qu'il y en a deux contre trois?
C'est ça. Il y a des dynamiques comme ça. Il y a tout le temps deux qui se mettent sur un des fois, puis une mouton noire dans les trois.
Mais curieusement, on avait Mario qui était le gars super organisé. Moi, j'étais un gars organisé, mais jamais comme lui.
Okay.
Il y avait Claude à l'autre bout, que tu rouvrais sa tente, tu disais « Oh boy, c'est le bordel, on ferme la tente. » De toute façon de parler, son bordel était quand même correct. Là. Mm. Et je veux dire, c'était un gars qui prenait ça peut-être plus relax, puis moi, j'étais entre les deux. Fait que ça donnait un bon équilibre où est-ce que Mario nous organisait, Claude nous relaxait, puis moi, entre les deux, ben, je faisais le... Fait que c'était parfait. Ça donnait une bonne façon de travailler. Puis la preuve, c'est qu'on est encore amis. Puis Mario est venu avec moi sur le K2 par la suite.
Ah oui, OK.
Avec Claude, non, parce que lui, son défi, c'était l'Everest, c'est tout ce qu'il voulait faire. Puis c'était fait.
C'est légitime. C'est assez un bon défi.
Oh, j'entends, il a bien réussi.
On va y donner.
Là, l'affaire que je comprends, finalement, on entend depuis tout à l'heure, expédition commerciale et tout. Ça veut dire que vous avez pas fait un style d'expédition comme avec des guides et tout. Vous avez tout fait par vous-même.
Tout a été planifié par nous. C'était nous qui décidions le nombre de fois qu'on montait, par où on passait, qu'est-ce qu'on installait, combien de camps, c'est quoi que ça prend comme nourriture. Donc, tout était fait en autonomie. Fait qu'on n'était pas guidé du tout. Puis je donne l'exemple, je l'ai dit dans un... J'ai écrit un livre sur mon ascension de l'Everest, puis je donnais un très bon exemple d'expédition commerciale. C'est comme quelqu'un qui traverse l'Atlantique. Pas je l'ai fait, là, mais c'est, l'exemple était bon. Si je traverse un voilier, j'ai préparé mon bateau, je trace ma route, je fais ma navigation, je prépare ma bouffe, ou je traverse un bateau de croisière. Les deux, on a traversé.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais c'est pas le même défi. C'est pas la même chose. Sur l'Everest, c'est encore pire parce que la personne doit quand même physiquement le grimper. C'est tough, même pour quelqu'un qui est en forme. Puis c'est probablement beaucoup plus dur quand tu sais pas trop ce que tu fais. Puis que tu trouves ça dangereux. Une anecdote que j'ai, c'est qu'on avait rencontré une expédition commerciale qui était dans le glacier avant le camp 1. Il y a une trentaine de crevasses qu'on doit traverser sur des échelles. On arrive là, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont toutes encordées. Puis là, ils se détachent un par un pour traverser sur l'échelle. Puis le premier, ça y prend à faire comme 15 minutes. Fait que je suis allé voir le guide, j'ai dit, ça te dérange-tu si on passe? On en a pour une couple de minutes. Fait qu'on a traversé, puis ça, c'est des gens au niveau commercial. Fait que bref, il y avait peur du écoute,
il y en avait déjà peur avant le camp.
Oui, puis il y en a 28 autres de même à traverser. Plus après ça, en haut, c'est encore plus à pic. Bon. Fait que quand on est arrivé là, il nous a permis de passer. Fait qu'on est passé, ça a dû nous prendre 3 minutes et demie, là, parce qu'on est habitué. Puis je me souviens d'avoir viré le coin sur le bord d'un monticule de glace, d'avoir juste regardé, puis ils nous regardaient tous, puis ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Ben, c'est ça. Vous devriez y retourner en bas.
Ah ouais, hein, y a les guides, des fois ils doivent se dire, lui, je le sais qu'il le fera pas, là, dans les premiers instants. Là.
Ouais, là, ça, mais c'est une question de sous. Puis, tu sais, je dis pas, guider sur certaines montagnes, c'est correct, ça se faisait dans les Alpes, puis mais c'est souvent, moi je guiderais du monde sur l'Everest, ben, j'en guiderais plus aujourd'hui, là, mais j'avais répondu à quelqu'un, est-ce que je serais prêt à guider? Oui, à une condition. Quelqu'un qui est capable de le faire tout seul. Mm-hmm. Puis, toi, tu es déjà allé, donc tu as la recette. J'aimerais ça que tu me donnes une chance de plus d'arriver en haut. Donc, il est autonome. Le mot le plus important, c'est l'autonomie. Il n'a pas besoin de moi, mais il va se servir de moi pour que ça aille un peu mieux.
Ouais.
S'il n'est pas autonome, il n'y a pas d'affaire là. Parce que si ça va mal, qu'est-ce que je fais? Je fais comme les guides en 96. Il était avec son client, il était dans une tempête de neige. Le gars était après mourir. On lui disait, laisse-le là. Mais tu peux pas laisser ton client là. Mm. Fait qu'il est mort avec. Et c'est les deux guides des deux plus grandes expéditions, une américaine puis un néo-zélandais, qui sont morts avec leurs clients. Fait que Tragédie à l'Everest, vous irez lire ça, c'est un bon livre.
Ça c'est fou. Mais c'est que j'imaginais pas, ça veut dire que. Mais c'est pas. On s'entend, les personnes pendant les expéditions guidées, c'est pas du monsieur, madame, tout le monde qui ont juste ben du cash à mettre là-dedans. Tu sais, il y a une présélection sûrement qui est faite.
Oui, il y a une présélection. J'ai parlé avec plusieurs en 2004 qui étaient là. Puis ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils auraient voulu le faire avant, mais ils étaient pris dans leur travail, ils n'avaient pas le temps, etc. Puis là, ben, il y avait la forme, puis il y avait surtout l'argent. Mais celui à qui j'ai parlé avait une certaine autonomie, il avait fait de la montagne.
Okay, au minimum.
Fait que dans un cas comme ça, ça me fatiguait moins. Mais la personne que tu vois mettre ses crampons à l'envers,
ben voyons, pour le
quand vrai? Il part pour monter sa montagne pour la première fois, puis son œuf parce qu'il vient les déballer, ça s'est vu, là. Fait que ça, mais c'est moins.
C'est accepté, là. Tu sais, parce que mettons, ça veut dire, là si je prends l'exemple de nous trois, là, si nous autres, on avait bien du gros cash, on pourrait, mettons, déposer ça, puis tu sais, si mettons, on était en forme, puis on courait full et tout, on pourrait juste déposer du cash, y aller, puis il poserait pas nécessairement de questions, puis prendrait le risque avec nous?
Il devrait vous poser des questions. Mais est-ce qu'il en pose? Je le sais pas. 96 avait réglé le problème, entre guillemets, vu qu'il y a eu beaucoup de morts, ben ils se sont mis après ça, il n'y en avait plus, ou presque pas. Mais quand je suis allé en 2004, il recommençait, il y avait une petite expédition. D'ailleurs, c'était la même compagnie, bon, pas le même guide, il est mort.
Ouais.
Donc, pas le même propriétaire, là, c'est le guide propriétaire. Mais lui, sa même compagnie était là. Il y avait 4 personnes avec lui et non pas 20 personnes à peu près comme dans le temps. Mais là, ça a recommencé parce qu'on a vu des line-up en 2000.
Mais les photos là, qu'on voit se passer là, sur les internets.
On voit des line-up, puis les line-up, moi je les vois, puis ça me donne froid dans le dos parce que j'ai la même place au lieu d'une centaine, là, on était 4 nous autres. Puis les fameux 100 qu'on voit sur la fameuse photo sur l'arête finale, ils sont tous attachés à la même corde qui est attachée à la même vis. S'il y en a un qui part, ils partent tous. Fait que moi, je ne me serais même pas attaché à sa corde. Je serais passé à côté.
Tu sais, il y a ça aujourd'hui, ça se fait encore, là?
Oui, c'est reparti de plus belle. Que je suis content, j'ai fait l'Everest au bon moment en 2004 où c'était relativement tranquille. Pratiquement pas de monde sur la montagne quand on était là. Je suis même allé au Tibet sur une montagne qui est le 6e sommet du monde, qui est supposément achalandé. Puis on a passé une couple de nuits avec que moi et mon compagnon de cordée sur la montagne, personne d'autre. Fait que c'est. Il y a eu des années un petit peu plus tranquilles, mais on dirait que c'est après à repartir, effectivement. Mais c'est partout, hein, c'est pas juste là. Si tu veux aller faire une expédition en Antarctique, si tu veux aller skier un petit bout au pôle, là, tu peux le faire. Il y a plein de choses qui s'organisent aujourd'hui. Il faut juste comprendre qu'il y a des trucs qui sont plus sécuritaires que d'autres si on t'encadre. Mais sur la montagne, je trouve que c'est risqué un peu.
Parce qu'ils prennent trop de risques, finalement, ça, avec du monde comme qui n'ont aucunement l'expérience. Vous saviez que vous étiez prêt. Fait que finalement, c'est ça. Moi, j'avais pour impression que tu étais obligé de comme... Pas passer des tests, mais prouver que tu étais capable d'y aller au gouvernement ou quelque chose pour avoir le droit d'y aller. Mais finalement, tu sais, il faut juste le payer puis se faire confiance à soi-même.
Officiellement, tu es censé prouver certaines choses, d'avoir une certaine expérience de montagne. Mais dans les faits, c'est des beaux dollars qui rentrent dans le pays.
Oui, quand il y a de l'argent là, dans n'importe quoi, il y a des choses qui se passent.
Tu voudrais aller faire le Mont Katahdin en hiver ici dans le Maine. Ils vont te demander un bon CV, puis ils vont vérifier que tu as tous tes équipements, ce qui n'est pas le cas sur l'Everest.
Pour de vrai?
Oui.
Oh!
C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une question de sous.
Ça doit être une bonne partie de leur revenu du pays au Népal, là, quand même. Là.
Une très grosse partie, oui.
Ouais, donc finalement, c'est pour ça. OK. Fait que finalement, ouais, là pour on continue dans le parcours, là, parce que ouais, moi, je trouve ça tellement intéressant, là, c'est fou. Tu sais, là, dans le fond, mettons, là, vous êtes senti prêt, vous dites, OK, on est prêt, on book les billets pour l'Everest. Là, il doit avoir un meilleur moment dans l'année pour y aller, quelque chose dans ce style-là.
Ouais, c'est plus simple, c'est plus compliqué que ça, avant de booker les billets, parce que quand on a voulu y aller, on était prêt au niveau de l'expérience, au niveau de tout ça. Mais quand on a lancé l'idée d'aller à l'Everest, on a fait une conférence de presse, mais on savait que ça coûtait sur 2 ans, parce qu'on a fait une reconnaissance en 2003, on a monté quand même sur la montagne jusqu'à 7000 mètres. Okay. On est retourné en 2004 faire le sommet. Prenez l'équipement, les billets d'avion pour 3 personnes, plus un qui gérait le camp de base, organiser toute la logistique en arrière. On travaillait avec Salut Bonjour à l'époque, donc il a fallu trouver 250 000. Fait que c'est ça. Les 3 billets en même temps.
Ah oui, oui.
c'est un bon montant, puis ça n'a pas bien baissé, ça a même augmenté. Fait que ça a coûté 250 000, fait qu'il fallait trouver un commanditaire pour, à moins d'avoir l'argent, ce qui n'était pas notre cas. Fait qu'on s'est dit, il faut trouver des commanditaires, puis ça a probablement été la partie la plus difficile. Parce que ça aurait coûté moins cher de faire une expédition commerciale, de se joindre à une expédition commerciale, que d'y aller en autonomie comme ça, où on embauche nos propres Népalais avec qui on travaille, les Sherpas, l'agence avec qui on va travailler, faire notre logistique, acheter nos choses, tout planifier notre route et tout. Là. Fait que ça coûtait plus cher.
Puis est-ce que... Oh, je voulais pas t'interrompre. Tu peux
vas-y.
Mais je voulais dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, parce que mettons en 2004, là, peut-être que dans le temps, les commanditaires se disaient, voyons donc, des Québécois qui vont aller faire ça, ça se peut pas. On va être réticents à les financer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vu que justement, il y a des personnes comme toi qui l'ont déjà prouvé, est-ce qu'ils seraient plus ouverts à financer ou c'est vraiment du hasard? Tu sais, je connais pas trop le marketing et ces choses-là.
Ben, moi, je pense que c'est l'inverse. En 2004, c'était encore... Bon, on pouvait pas. Faut comprendre qu'on pouvait pas vendre la gloire de l'Everest, des Québécois à l'Everest. Ça avait déjà été fait. Yves Laforêt était le premier en 1991.
Okay.
Fait qu'on pouvait pas vendre ça nécessairement. Ce qu'on a vendu, c'est de la pub. On passait à Salut Bonjour. Après ça, dans les autres montagnes, j'étais avec RDI, Matin Express Weekend, avec Louis Lemieux. Fait que c'est ça qu'on a vendu.
Okay.
Heureusement, j'avais étudié en finance. Ça prenait un ancien banquier pour financer une expédition. Puis je dis souvent ça à des jeunes. C'est important, les études. Ça m'a permis d'aller à l'Everest, puis c'est vrai. Mais c'est ça qu'il fallait vendre. Donc, on s'est fait un plan de qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce que ça me donne en retour. Puis aujourd'hui, je dirais que c'est plus dur parce que toutes les fameuses photos qu'on voit à l'Everest, j'avais un projet justement de film sur l'Everest, en tout cas pas sur l'Everest en soi, mais une espèce de documentaire sur d'autres Québécois qui l'ont fait et tout. Puis ça est ressorti, puis ça nous a un peu bloqué. Parce qu'on a dit, ah, ben l'Everest, tout le monde y va, regarde le line-up.
Mm-hmm.
C'est facile. Bon, OK. Facile, non, mais line-up, je suis d'accord. Il y a un peu plus de monde qu'avant.
Mais c'est ça la question que j'osais pas poser, mais tant qu'à être sur le sujet. Tu sais, justement, en 2004, est-ce que c'était plus... C'est quoi qu'il faut que je dise? Pas anodin?
C'était moins anodin.
C'était moins... est-ce que c'était moins anodin que... tu sais, justement, des Québécois le font, tout le monde était comme, wow, c'est, tu sais, même si vous n'étiez pas les premiers à le faire, tu sais, c'était quand même capoté, parce que, me semble, est-ce que, mettons, là, un Québécois veut faire ça, est-ce qu'il va avoir, tant que ça, une mêlée de presse, salut, bonjour, d'affaires comme ça, ou puisque, finalement, tu sais, même si c'est encore capoté, il y a tellement de monde dans le monde qui le font que ça vaut-tu tant la peine maintenant?
Ben, comme je dis, ça dépend pourquoi, mais est-ce que c'est plus... ça peut passer plus sous le radar, effectivement, aujourd'hui. Ouais. Nous autres, on était pas les premiers, mais on était dans les premiers.
Ouais, c'est ça.
Je pense que dans l'ordre de... Je ne sais pas qui est arrivé en premier, mais comme il y avait 2 Québécois en plus cette fois-là, je pense que j'étais le 5e ou quelque chose comme ça. Là. Depuis ce temps-là, il y en a quand même pas mal. 4 ou 5e, il faudrait que je regarde parce qu'il y a un registre. Ouais, ils m'ont mis où? Mais encore là, ça dépend qui le dit en premier. Là, mais bref, dans les premiers. Mais il faut comprendre qu'on était, nous autres, on disait toujours qu'on était la première équipe de Québécois.
Ah, okay.
La première équipe québécoise. Fait que c'était une équipe qui partait d'ici en autonomie. Yves Laforêt était le premier. Yves était dans une expédition américaine. Il s'est greffé à une expédition américaine. Et d'autres étaient dans d'autres expéditions. Fait que nous, on était la première équipe de Québécois qui allait gravir l'Everest. C'est peut-être ça qui nous a donné beaucoup de visibilité, dont caricature. Ça, quand tu as une conférence puis que le mot, tu t'enfarges 3 fois dedans, tu changes pour autre chose. Mais bref, quelqu'un me disait que pour être caricaturé, il faut qu'on aille parler beaucoup. Fait que on avait été à l'époque, il y avait signature des registres pour les diffusions municipales. on retourne dans le passé, là, puis je me souviens qu'il y avait une montagne de registre, puis on voyait trois Québécois qui regardaient la montagne qui était plus haute que l'Everest. Puis l'autre, c'était trois Québécois au sommet de l'Everest, qui, je me souviens pas pourquoi, mais on s'en foutait, là, c'était un autre bebel, là. Fait qu'il y avait eu deux caricatures, comme ça.
Puis est-ce qu'il y a du monde qui critiquait ça, ou, tu sais, il me semble que tout le monde admire ça, mais est-ce qu'il y a du monde qui dit « Oh, là... Pourquoi qu'ils vont faire ça, ou je sais pas.
Oh, y en aura toujours, ouais, qui vont te poser la question pourquoi, mais moi je me souviens d'avoir, je supportais une cause à l'époque, puis il y a une dame de qui est en charge de cette organisation-là qui était venue me voir, puis qui comprenait pas. On faisait un truc pour le cancer du sein, puis les gens allaient gravir le Mont Saint-Anne. Ouais. Elle disait, je comprends pas pourquoi ils font pas un chèque au lieu de monter en montagne, de se donner de la difficulté. Puis elle dit, d'ailleurs, je comprends pas, toi, pourquoi tu donnes la misère de même ces montagnes. Et j'avais répondu une phrase célèbre d'un alpiniste qui avait été sur l'Everest, Mallory, à l'époque, qui avait dit... Non, c'était pas Mallory qui avait dit ça. Bref, j'oublie qu'il le dit, là, mais un alpiniste avait dit, ben, le fait de poser la question, je vous répondrai pas parce que vous comprendrez pas la réponse.
Non, non.
C'est ça.
C'est vrai.
C'est exactement ce que j'ai répondu, puis j'ai tourné talon, puis je suis pas allé plus loin.
c'est une bonne
les
réponse.
Les gens montent la montagne, le Mont-Saint-Anne, parce qu'ils ont des gens dans leur entourage qui l'arrachent, puis ils veulent l'arracheuse auto aussi un petit peu, se donner un espèce. Ils veulent pas faire un chèque, ils veulent faire quelque chose. Mm-hmm. Mais elles comprenaient pas ça. En tout cas, bref.
Ouais, ouais, mais c'est vrai. Il y a du monde toujours. Qui ils comprendront jamais.
Puis... Il y a des gens qui me disent ça. Oui, pourquoi tu fais ça? Ben... Je sais pas comment t'as combien de temps pour que je te l'explique. T'as-tu une minute?
Ouais.
Si t'as une coupe d'or, on va en parler. Si t'as deux minutes. Puis ça, c'est drôle, parce que j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il y a des gens, des fois, qui t'abordent. Hey, parle-moi donc de ça, ta montagne, de l'Everest. Puis tu sais qu'il y a à peu près 30 secondes et demie.
Ben, c'était beau.
Tu t'as le fun, c'est ça.
Ben oui.
Mais tu sais, moi, de ce que je comprends, c'est vous, c'est finalement, c'est quasiment plus épuisant toutes les préparations avant que. Tu sais, c'est tellement d'années de préparation. Tu sais, si en plus on compte toutes les montagnes que tu dois te préparer à faire, que tu sais, quand t'arrives là, est-ce que quand t'arrives là-bas, t'es comme. Ça t'enlève du poids de les épaules. T'es comme, hey, là, je suis là, on est là pour ça. Tu sais, même si tu sais pas si tu vas te rendre en haut, t'es comme, là, ça se passe là.
Ben, ce qui est bénéfique d'une certaine façon, les préparatifs du départ, avant le départ, sont énormes, surtout en plus quand tu as des commanditaires. Je me souviens d'avoir serré des mains dans un événement la veille du départ. Ça, c'est arrivé souvent. Quand tu pars, la beauté de la chose, c'est que tu as presque 3 jours d'avion. Après ça, tu arrives là-bas au Népal, c'est un autre rythme. Quand tu montes à la montagne, il n'y a rien d'autre à faire que de marcher puis de relaxer. C'est complètement un autre rythme. Fait que tu as le temps de décompresser. Quand tu arrives à la montagne, puis même quand tu es sur la montagne, tu fais quoi? Tu grimpes, tu dors, puis tu manges. C'est à peu près tout. Fait quand tu reviens, quand tu pars là-bas, ben, on disait toujours on part. Les premiers aéroports en transit, que ce soit à Londres ou que ce soit aux Émirats arabes, il y a un téléphone cellulaire qui sonne, tu cherches le tien, mais tu ne l'as pas. Puis quand tu reviens, ben, le tien sonne, puis tu réponds pas. Parce que tu es comme plus habitué à ça. Tu es sur un autre beat complètement. Fait que tu prends le rythme de la montagne. Puis ça, je donnais l'exemple quand on a traversé l'Atlantique en voilier. Il faut que tu prennes le rythme de la mer. Les premiers jours, tu entends des bing-bang parce qu'on se cogne la tête dans. Il y a de la vague, c'est toujours en mouvement, bateau, bidling, badlang. Puis à un moment donné, tu n'en entends plus de ça. Tu as pris le rythme où tu vas plus lentement, tu prends la main quelque part avant de bouger, tu n'es pas en train de t'enfarger. C'est la même affaire sur la montagne. Tu prends le rythme de la montagne.
T'es plus calme, t'es plus relax. Mais même à ça, est-ce que tu considérais, y a-tu un moment que tu t'es senti un peu apeuré pendant ta
des déséquilibres un peu?
Parce que t'as dit que t'étais en confiance pas mal toute ta montée, mais y a-tu justement eu un moment?
Oh, t'as des questionnements. C'est-tu le bon moment? Je grimpe, je suis correct? Il va t'arriver quelque chose? Quand tu pars pour le sommet, on part en pleine nuit du dernier camp, puis tu pars pour le sommet, tu dis j'en ai pour une douzaine d'heures avant de me rendre au sommet, puis là il fait noir, puis il fait moins 60 dehors. Je fais-tu la bonne affaire? Tu croises quelques-uns qui redescendent, tu sais que ça fait 24 heures dans leur cas parce qu'eux autres étaient restés beaucoup trop longtemps, là. Ça a pris trop de temps. Ils étaient complètement épuisés. Tu te demandes si tu vas y revoir, sont-ils après mourir là? Ils ont l'air corrects, mais ils te font signe, vas-y, vas-y. Bon, fait que là, tu passes. Mais tu te dis, je sais pas. Tu te poses des questions, mais en même temps, c'est là que c'est important d'avoir l'expérience. Quand tu as beaucoup d'expérience, ben tu sais ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, tu sais, le débutant, on dit, il est téméraire, le débutant. Non, il n'est pas téméraire. Il ne sait pas que c'est dangereux. C'est ça la nuance. Fait que quand tu as de l'expérience, tu vas le savoir quand c'est dangereux. Puis quand tu te connais bien, tu vas le savoir si ton corps te dit quelque chose. Oups, il y a de quoi qui ne marche pas. Comme je disais tantôt, je le sais, moi, quand je pourrais avoir un rhume ou quelque chose, ou je le sais d'avance. Parce que je le sais, j'ai une petite faiblesse, j'ai quelque chose qui ne marche pas, je me connais bien. Fait qu'il faut juste s'écouter. Puis ça, ça s'appelle l'expérience. Fait que pour ça que est-ce que je serais allé à 18 ans? Parce que je ne pense pas, non. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Quelqu'un qui est bien mature et qui a commencé bien, bien jeune. Là, mais
ça, il prend 15 minutes de faire une crevasse. C'est ça la différence.
Peut-être pas. Mais ça dépend toujours des gens. Mais c'est au contraire, c'est de savoir doser. Il est peut-être très bon en escalade à 18 ans. Ouais. Il va être capable de passer à la crevasse facilement.
Mm-hmm.
Mais est-ce qu'il va être capable de doser son énergie pour avoir tout ce qu'il faut dans 2 mois et demi pour arriver au sommet?
Mais surtout à la fin, là, c'est pas justement à la fin, les 12 dernières heures, ça s'appelle la dead zone. Là. C'est-tu là que justement, vous pouvez pas rester là plus que...
Bon, quelques jours seulement, je vois que tu as fait tes devoirs.
Mais j'ai écouté une vidéo.
Tu connaissais déjà.
Toutes les étapes. Les glaciers tantôt, j'ai vu.
Mais c'est ça, je voulais, en parlant de ça, est-ce que vite, on pourrait dire, c'est quoi les étapes, mettons, le camp 1, camp 2, puis après ça, la dead zone, mettons?
Ouais, je vais l'expliquer parce que dans les conférences, c'est ce que j'explique en premier. Quand on arrive au pied de l'Everest, il faut savoir que pour arriver au pied de l'Everest, ça prend 10 jours. Il n'y a pas de route, c'est qu'un sentier de montagne. C'est un beau sentier, par exemple. C'est entre les villages, c'est la route entre les villages. Puis ça prend 10 jours. Pourquoi? Parce qu'on arrive déjà en haute altitude. On est à 5400 mètres. 5400 mètres, mettez un 400 quelques mètres de plus, puis on est au sommet du Kilimanjaro. J'enlève rien au Kilimanjaro, c'est une très grosse montagne. Mais pour vous donner une idée de la démesure, on est à 5400 mètres, on est au pied de la montagne. À partir de là, on va prendre quelques jours de repos. Après ça, on va aller installer un camp 1. On va traverser le glacier. C'est là qu'il y a les crevasses. Donc, il y a une trentaine de crevasses. On installe des ponts, des échelles là-dessus. Ceux qui ont déjà vu des images vont se rappeler de ça. Puis là, on va installer le camp 1 à 6000 mètres. On l'installe, puis on descend au camp de base. Puis on va prendre plusieurs jours de repos. Okay. Après plusieurs jours, on va remonter au camp 1. On va dormir là. Puis le lendemain, on va aller installer le camp 2 à 6400 mètres. On va redescendre au camp 1 pour une dernière nuit. Là, c'est la théorie. Là. Après ça, on va redescendre au camp de base. Après 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, on va remonter au camp 1. Des fois, on peut passer directement au 2 parce qu'on est acclimaté, on est ajusté au manque d'oxygène.
Okay.
On va aller direct au 1, puis peut-être au 2 directement. Quelques nuits là, on va monter, installer un camp 3 à 7300 mètres. On va redescendre au camp 2, passer quelques jours, redescendre au camp de base. La quatrième fois, on monte au 2, on monte au 3. On monte au 4 qui n'est pas installé. Il y a des tentes qu'on a montées. Là, on va installer notre camp et on part pour le sommet après ça la quatrième fois. Pourquoi on fait ça?
Oui.
Transporter le matériel dont on a besoin, puis acclimater, ajuster, laisser le corps s'ajuster au manque d'oxygène. Si j'étais envoyé au sommet de l'Everest de façon instantanée, j'aurais à peu près 30 minutes à vivre.
Oh.
Même avec de l'oxygène. Donc, ce que ça permet de faire, pourquoi j'ai passé 1h30 au sommet, pourquoi j'ai passé pratiquement 2 à 3 jours en haut de 8000 mètres, parce que mon corps est ajusté au manque d'oxygène. Le fait de faire des allers-retours, il s'ajuste. Comment il s'ajuste? Sans rentrer dans les détails, quand on respire, ce qui va transporter l'oxygène dans le corps, ce sont les globules rouges. Mm. L'air va dans les poumons, transféré via les alvéoles aux globules rouges qui transportent ça partout dans le corps. Comme il y a moins d'oxygène, bien, le corps va se mettre à respirer plus. Accélérer le rythme cardiaque, donc on transporte plus rapidement, mais ça a une limite. Fait qu'après ça, le corps se met à produire plus de globules rouges. Il se dit, si on ne veut pas faire pomper le cœur tout le long de même, on va créer plus de véhicules pour transporter l'oxygène. Ça demande du temps. C'est ça, les allers-retours.
Mmh.
C'est beaucoup plus complexe, mais ça le résume quand même assez bien. Puis malgré ça, mettons qu'à l'époque, j'avais à peu près un rythme de 56 battements par minute au repos. Ici, ben, au pied de l'Everest, je battais à 82 au repos. Donc, déjà, je t'en ai fort. On a quelqu'un qui s'occupait du camp de base. Là. Il n'a même pas monté la montagne. Il s'est juste promené alentour. Il a perdu une vingtaine de livres.
Mais voyons donc.
C'est parce que son rythme cardiaque, c'est comme si c'était en exercice constant, même quand tu dors. Puis en haut, c'est encore pire que ça. En haut, tu bats déjà pas loin de 95. Fait que si tu te lèves, t'es rendu à 120. Tu n'as même pas bougé, tu t'es juste levé.
Hey, 120, c'est fais du bon jogging. Là, pis,
ouais. Il y a par contre un phénomène qui est merveilleux, c'est que ton cœur ne peut pas s'emballer. Il y a une limite. Autrement dit, ce qu'on appelle le cœur monte très, très haut quand tu fais un certain jogging puis tu atteins ton deuxième souffle.
Mm-hmm.
Ben, en haute altitude, ça ne peut pas arriver.
Oh,
il n'y a pas de deuxième souffle, ça ne marche pas. Fait que le cœur, il y a une certaine limite parce qu'autrement, il s'emballerait beaucoup trop.
J'ai peut-être une question bien conne, là, mais les journées de repos, là, vous faites quoi? Genre, vous jouez au Uno? Ou, tu sais, y a-t-il des affaires à faire?
Ben, il y a beaucoup de choses à faire. Les journées de repos, c'est en réalité, on dit de repos, puis c'est d'acclimatation. Là,
okay.
Déjà, on est en survie. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut se laver. Fait que on a quand même un système, on fait chauffer de l'eau, on a une petite tente, fait que le matin de bonne heure, quand le soleil plombe, il peut faire à 0 degré facilement, des fois un petit peu au-dessus. Fait que c'est le moment où on va se laver. S'il passe un nuage, ça redescend à moins 5. Là, mais... fait que, bref, on est capable de se laver, on est capable de faire son lavage, on est capable de... Nous, on avait quand même des communications à faire avec nos commanditaires, avec la télé, la radio également. Fait qu'on avait plusieurs choses à faire. Fait qu'on a quand même beaucoup d'ouvrages dans ces journées-là, puis on essaye de se reposer quand c'est possible.
Okay, quand finalement vous n'êtes pas en entrevue avec Salut Bonjour, puis...
On se repose. Entre deux lavages, mais tu sais, tout est compliqué là-bas. Là. Faire son lavage. Ici, on disait toujours en 10 minutes, tu mets ton linge dans la laveuse, tu vas prendre ta douche, puis tu manges. Mm-hmm. Parce que tu as mis ça dans le micro-ondes. Là-bas, juste te faire à manger, c'est une coupe d'heure. Te laver, il y a le temps de faire bouillir l'eau, il faut aller chercher, puis de l'eau, il n'y en a pas. C'est de la glace, de la neige qu'on prend, qu'on met dans. Fait que tout ça prend du temps. Puis faire le lavage aussi, c'est le même principe. Fait que, tu sais, une journée, tu te dis, cette journée-là, c'est le lavage. Le lendemain, je me lave. Oh, puis ouais. La troisième, ben, on mange tout le temps, ça, c'est sûr. Ouais.
Mais ouais, puis justement, la bouffe, là. Est-ce que c'est qu'au camp de base, il y a comme. Ben, pas une épicerie, là, mais dans le sens, il y a vraiment. On s'entend, mais il y a un métro, tu sais. Mais non, mais dans le sens, il y a beaucoup de bouffe au camp de base. Là, quand vous descendez à chaque fois au camp de base, vous remontez de la bouffe ou vous traînez tout le temps. Parce qu'il y a deux mois sans. À traîner de la bouffe, c'est beaucoup de bouffe, me semble.
Au camp de base, on a quand même pas mal de stock qui est arrivé par yak, qui est arrivé par porteur. Fait que ça, on a de la bouffe fraîche, en guillemets. On n'a pas de la salade verte, parce que ça se garde pas, mais on a du chou. Toutes sortes de trucs, de légumes qui prennent, puis on a des conserves. Fait qu'on a de la bouffe quand même pas pire au camp de base. Sur la montagne, c'est de la nourriture déshydratée. Mm. C'est de la nourriture lyophilisée, qu'ils appellent. C'est un procédé qui fait que ça... C'est merveilleux, parce que tout ce que tu as à faire quand tu es en montagne, c'est ben, faut que tu montes du gaz, faut que tu montes un poêle. Puis là, tu prends de la neige, tu mets ça, tu fais fondre de la neige. Puis quand tu as de l'eau assez chaude, tu rouvres le petit sachet, tu mets l'eau dedans, tu refermes, ça réhydrate en quelques minutes, puis ça réchauffe en même temps. C'est merveilleux. Le seul défaut, c'est que quand tu en manges pendant une journée, c'est pas pire. Une semaine, ça commence à être moins terrible. Puis après deux mois, c'est désastreux. Oh. Ça goûte toute la même affaire, peu importe ce que tu amènes. Puis il y a un autre phénomène que j'ai pas dit. En haute altitude, tu viens que tu perds l'appétit. C'est-à-dire que des choses que tu n'aimes pas ici, tu n'aimeras pas ça là-bas. Des choses que tu manges ici, tu dis c'est correct, c'est pas ma bouffe préférée, oublie ça, ton corps n'en voudra pas. Puis des choses qui sont dures à digérer, même si tu aimes ça ici, ton corps va te dire non merci. Parce qu'il y a de la misère à fonctionner si tu lui donnes, si tu manges une poutine, mettons.
Ouais.
Sur la montagne, j'entends, là, il se dit j'ai de la misère à marcher, si je mange une poutine, je perds 20% de mon énergie à digérer, oublie ça. Fait que t'as le goût de la manger, mais tu n'es pas capable. Fait que faut que tu trouves des choses que tu aimes ici. Puis nous, on avait fait un choix quand on est allé sur le Côte d'Or, on appelle ça l'expérience. On avait regardé toute la bouffe déshydratée, puis on a dû du macaroni au fromage. C'est tout ce qu'on a amené.
Nice.
Parce que le reste ne rentrait pas. On le savait à l'Everest, on a tout mis de côté, mais maintenant, on n'était plus capable. Mais petite anecdote, quand on était sur le Côte d'Or, au camp de base, ça c'est différent, tu es acclimaté. Quand tu retournes là, il fait plus chaud aussi. On n'était plus capable de manger du mouton pakistanais qui séchait dans la tente. À l'air. Ce qu'il appelait du mutton. On disait, oui, c'est pas mal des muttons. Fait qu'on avait amené, on avait des patates, on avait une grosse meule de fromage et on avait amené de la sauce à poutine Saint-Hubert. On en a mangé souvent. On y a montré au cuir. On avait un cuisinier pakistanais, on y a montré à faire des frites allumettes, puis on a dit, poutine! Il y avait juste ça qui rentrait au camp de base. Fait que c'est ce qu'on a fait souvent. À un moment donné, tu manges plus ce que tu devrais manger pour être en pleine forme. Tu manges la seule chose que tu es capable de manger.
Mmh. Ouais.
Parce que c'est curieux, mais tu perds énormément l'appétit. Ce qui est un peu... c'est désastreux parce que tu as besoin de manger, mais tu n'as plus faim.
OK.
Fait que faut que tu trouves des choses que tu aimes. Puis tu dis, moi, je n'ai pas faim, je suis capable de manger ça. C'est pour ça qu'on avait arrêté. Macaroni au fromage, dans le déshydraté, on s'est dit, même pas faim, je suis capable de forcer. Mais du bœuf stroganoff, j'aime ça. Mm. Mais lyophilisé, je suis pas sûr.
Mm.
On l'avait essayé de toute façon.
Ouais, j'ai l'impression que ça te prend au moins un peu de petits plaisirs comme ça pour t'aider à passer au travers. Là,
tu peux t'amener des petites barres de chocolat, des affaires comme ça?
Tu peux amener ce que tu veux, mais le problème, c'est que moi, j'avais amené des pots de Nutella puis je les ai donnés. Mon corps en voulait pas.
Ben,
une chose qui est bonne, puis ça marchait pour moi, la merveilleuse invention du bacon pré-cuit.
Ah
oh, oui!
Ouais. Parce que ça, il n'y a pas besoin de congélation. Tu scrapes les boîtes, tu gardes juste les sachets, ça prend pas de place. On en avait amené pour en manger. Une petite anecdote. On était au Pakistan, puis il y a toujours un officier de liaison pakistanais qui nous suit. C'est un militaire. Mais t'es un peu lié d'amitié avec lui. Puis, il demandait ce que je mangeais. Naturellement, il n'y a plus les boîtes, rien. Fait que moi, j'en ai fait manger. J'oublie qu'il est musulman.
Oh non!
C'est
oh non.
Du porc. Puis après deux semaines, quelqu'un me fait la remarque, il mange du porc. J'ai jamais dit. Il dit, rendu là, je lui saurai pas, il aime ça.
Oui.
J'ai même pas pensé, c'est pas méchant, là. Mm-hmm. J'y ai pas pensé. Fait que finalement, je me suis dit, bon, rendu là, j'y dis pas.
S'il écoute en ce moment, il va le savoir.
Le Pakistan, il va se manger au complet.
Non, je pense qu'il m'en aurait pas voulu. Il aurait compris, là, c'est complètement une erreur. J'ai pas pensé d'y demander. Mm-hmm. Puis,
il n'y a pas de malice.
J'ai trouvé ça bon.
Oui, il aimait ça. Mais comme il ne sait pas, probablement, je ne sais pas. J'imagine que c'est pas trop grave.
Il ne saura pas. Je me demandais. Hey, bordel, OK, déjà, OK, c'est bon. Le temps passe vite, OK, le temps passe vite. Je me demandais juste, et c'est sûrement une question que tu te fais demander tout le temps, mais tu sais, le feeling en haut, là, est-ce que t'es capable de décrire ça, ça? Est-ce que t'es tellement épuisé, mais t'es heureux d'être là, sais-tu, ça ressemble à quoi? T'arrives en haut, faut-tu que tu redescendes en bas directement? Tu peux-tu raconter ça?
Ben, quand t'arrives en haut, malheureusement, effectivement, t'es très épuisé. C'est la moitié de la route. La plupart des accidents en montagne arrivent à la descente. Fait que là, si tu te rappelles ça puis que tu as beaucoup d'expérience, t'es heureux, oui. On est resté une heure et demie au sommet. On avait beaucoup de commanditaires que j'appelais, je veux pas dire secondaires parce qu'ils étaient aussi importants que les premiers, mais on avait des commanditaires qui en mettaient un peu moins, mais qu'on avait une photo de leur drapeau, qu'on avait roulé des petits flags de leur logo qu'on prenait en haut. Fait qu'on avait beaucoup de photos à prendre. On a fait des communications en direct. J'ai appelé ma femme du sommet. J'ai dit, c'est encore ma femme aujourd'hui. J'ai dit, si un jour, tu n'es plus avec moi, il n'y a personne qui va te rappeler de là. Bref, c'est une blague, là, mais c'est à peine.
C'est vrai.
Mais c'est vrai. Mais fait qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses. Une heure et demie, ça a l'air long, mais ça a été quand même assez court. Puis pourquoi on a pu rester une heure et demie? Parce qu'on est arrivé très tôt, à 8h30 au sommet. Puis parce qu'il faisait beau. On savait qu'on avait en masse de temps de jour pour redescendre avant qu'il faisait moins 30 à ce moment-là, mais on sait qu'à fin de journée, quand le soleil baisse, la température descend, le vent se lève. Mm. Fait qu'on savait qu'on avait le temps. Mais tu te dis, c'est la moitié du chemin. Fait que tu peux pas fêter à la moitié du parcours quand le plus dangereux est à suivre. Fait qu'on s'est dit, on est content, mais à moitié. Quand est-ce que ça se termine puis qu'on le réalise? Même pas en arrivant au camp de base. Quand je suis arrivé au camp de base, après deux jours, j'étais content d'être au camp de base, mais ça demeure que tu es encore épuisé.
Oui.
Tu sais, enlevez-moi 25 livres que j'ai perdu sur l'Everest, plus brûlé, ben, tu es content, mais tu le réalises plus quand tu reviens. Quand on est arrivé à Montréal, on a eu un VIP accès parce que tout le monde nous attendait, puis on est passé. Le gardien de sécurité qui est venu nous chercher, puis il nous a amené à la bonne place, puis là, on a comme réalisé qu'OK, il y a plein de monde qui sont venus nous accueillir. Les journalistes de Québec, de radio, télé, tout le monde est là. Il y avait le soleil à l'époque. Le soleil avait monté là-bas pour nous accueillir. On s'est dit, OK, on a réussi. Là, on l'a plus réalisé. Mais au sommet, malheureusement, c'est une demi-victoire, on va dire comme ça. T'es content, mais c'est pas fini. Les photos sont belles. Les communications radio sont super, d'ailleurs, parce qu'on les a toutes prises. On a tout enregistré à partir du camp de base, nos communications radio du sommet. Puis moi, ce qui est le fun, c'est que je disais souvent, j'avais pas mal toute ma tête. Puis quand je m'écoute parler, je parle à peu près comme ici. Tu sais, des fois, tu dis, j'ai toute ma tête, puis là, tu t'écoutes, tu dis, oh boy, j'étais pas là.
Ouais. Mm.
Ça arrive, il y en a qui c'est arrivé, ils ont appelé, puis tu dis, c'est incohérent ce qu'ils disent, là. Mais dans ce cas-là, mes conversations sont aussi claires que ça. Fait que je n'ai profité, oui, mais en sachant que c'était pas terminé, puis qu'il fallait redescendre, surtout, là,
en sécurité. Ça. C'est clairement pas. Puis là, en plus, quand tu reviens à Montréal, tu dois être épuisé pendant un méchant bout.
Ben, t'as le goût. On avait déjà mangé, c'est sûr, là, mais je disais toujours qu'on est arrêté à Bangkok, à l'aéroport. On s'est commandé 3 club sandwich, 3 pains pichets de bière. Puis une fois qu'on a eu fini, on dit la même chose. Elle dit pour apporter? Non, pour tout de suite.
Ah ouais.
T'as faim.
Ah ouais.
Ben, tu sais, on disait toujours qu'on a perdu presque 75 livres à 3, là, même un petit peu plus que ça. Pas loin de 100 livres. Parce que Mario en avait perdu plus, fait qu'on avait à les reprendre. Puis ouais, on a vraiment mangé deux fois 2 clubs sandwich chacun, puis 2 pichets de bière.
C'est capoté. Ça.
Fait que les gens qui veulent maigrir en allant en montagne, faites pas ça, on leur prend pas.
J'imagine.
Tu sais, finalement, est-ce que tu sais, pour finir, là, est-ce que en revenant à Montréal, même là, est-ce que tu réalisais que ta vie serait changée à partir de là, que... Justement, tu commencerais à tout faire, les conférences, des choses comme ça, ou toi, dans ta tête, une semaine après, tu recommençais à ton institution financière?
Non, parce que ma job, je l'avais quitté. Okay. Mais je l'avais quitté parce que je partais trop longtemps.
Ouais.
Mais dans ma tête, non, parce que je n'ai jamais pensé donner de conférences. Quelqu'un m'a dit, c'était planifié d'avance? Non, pas du tout.
Vraiment pas.
C'est les hasards de la vie qui m'ont amené là, parce que je pensais que j'allais que ça allait complètement changer ma vie. Non, parce que j'allais réaliser un rêve que j'avais quand j'étais jeune. Mm-hmm. C'est juste ça que j'allais faire. Et ça m'a amené complètement ailleurs. Mais tu sais, si on prend Claude Saint-Hilaire, c'est un chiropraticien. Quand il est revenu, il est retourné à sa pratique de chiro. Lui, sa vie, elle a changé. Il y a eu avant et après l'Everest aussi. Mais ça demeure que sa vie professionnelle est un peu la même qu'avant. Alors que la mienne n'est jamais revenue comme avant. Je suis jamais retourné faire ce que je faisais. Puis, au contraire, j'ai vécu de mes conférences pendant 11 ans. Puis, j'ai pas arrêté parce que ça marchait pas. Les gens ont dit arrêter parce que ça marchait pas. T'as arrêté parce que ça marchait pas? J'ai dit non. La dernière année, je l'ai fait 130. C'est pas que ça marchait pas. Ça, j'étais jamais chez nous. J'étais comme tanné. J'ai trois enfants. Puis, je lui ai demandé si je veux pas que j'arrive à la maison. Puis, il dit c'est qui lui? C'est qui le monsieur? Et peut-être mieux. J'avais fait assez de route aussi. Puis, j'avais le goût de faire autre chose. De revenir à une vie plus normale.
Ouais.
D'une certaine façon. Il y a des journées, je retournerai à ma vie un peu plus. Mais quand je me rappelle tout ce qu'il y a à côté, ça, c'est beau le métier de conférencier, mais si je pouvais le faire de chez nous, du lundi au vendredi dans la semaine, sans partir tout le temps, puis pas tous les soirs. Tu sais, tu travailles 7 soirs sur 7 la plupart du temps. Tu as des grosses, grosses saisons, puis c'est toujours le soir, de temps en temps le jour, ou le samedi. Fait que c'est un peu ça.
Donc finalement, c'est pour ça que ces temps-ci, t'en fais encore, mais c'est...
J'essaie d'en faire 5 à 10 par année. Pour garder la main, puis souvent, puis c'est pas... je n'ai fait une à mon école secondaire, le collège de Lévis, la semaine passée. Ouais. J'aime ça. C'est pour des jeunes, puis c'est pas compliqué, c'est du bénévolat, mais c'est le fun. J'aime beaucoup parler aux jeunes. C'est ce que je préférais dans toutes les conférences que je donnais, parce que je me dis, j'en recroise là, qui ont déjà vu une de mes conférences, puis ça arrive souvent. Puis quand je vois une place, surtout dans une école que je suis déjà allé, puis quand ils sont plus vieux, je dis, qui a vu ma conférence? Il y a des mains qui se lèvent. Puis des fois, elle a changé de toute façon au fil du temps. Ça s'est enrichi parce que mes premières conférences en entrepreneuriat, j'avais l'Everest uniquement que je montrais. Puis dans les dernières, j'ai ajouté le code 2. Puis je mets des petits bouts de films. C'est des résumés des films. C'est pas passer des films d'une heure, une heure puis une heure et vingt, non? Mais j'ai mis des petits bouts de films pour montrer un peu c'est quoi, comment ça se passe. Puis pourquoi j'ai rajouté le code 2? Parce que je veux montrer aux jeunes que c'est possible de réaliser ses rêves. Que même quelqu'un qui a réussi l'Everest arrive sur le code 2 puis il n'a pas atteint le sommet. Mm-hmm. Que c'est fait par des êtres humains, puis qu'à moins de rien faire dans la vie, ben, un code 2, ça n'arrivera pas à personne. Si tu fais rien, ben, j'essaie de leur enseigner que l'échec fait partie de la réussite et que tous les gens qui ont réussi dans la vie, si on savait tous les échecs qu'ils ont eu avant de se rendre en quelque part, on se dira OK, ben, finalement, il est humain comme moi. Fait que, t'sais, on voit le succès dans la vie. On voit quelqu'un qui a réussi en affaires, quelqu'un qui a réussi dans des sports, quelqu'un qui a réussi en musique.
Ouais.
Mais est-ce qu'on sait toutes les difficultés puis tous les échecs qu'ils ont eu avant de se rendre là? C'est un peu ce que je veux montrer aux jeunes. Oui, j'ai fait l'Everest, mais ça arrive que des choses ne marchent pas comme prévu. Mais je m'en sers comme expérience. Ça a donné d'ailleurs un maudit bon film, le code 2.
Oui.
Probablement mon meilleur. Pas que l'Everest, c'est pas bon. L'Everest, c'est un film où on atteint le sommet, tout est beau. Mais le code 2, quand je l'ai présenté aux grands explorateurs, j'avais des salles, des fois, de 1000 personnes, comme ici à Albert Rousseau.
Mm-hmm.
Puis là, trois quarts du film, ils apprennent que je monte pas en haut. Là,
il
n'y a plus un son.
Ouais.
Un peu, ouais.
Et ça demande, puis... Mais l'histoire c'est est belle. J'ai des gens qui m'ont réécrit par la suite pour dire hey, quel beau message. Ouais. Le sommet, c'est la fin. Il y a tout le chemin qu'on parcourt pour se rendre là, tous les gens qu'on côtoie, tout ce qu'on a préparé. Puis le sommet, ben, c'est le petit plus. Mais même s'il n'est pas là, le 99% de l'aventure est là pareil.
Fait que cette métaphore-là, je la trouve tellement bonne.
Ouais. Ouais. C'est vrai.
C'est une super bonne idée de conférence. Puis ça fait des affaires inspirantes, là, justement, qui marquent. Moi, je pense que je viens de réaliser que je t'ai déjà vu en conférence aussi.
OK.
Je viens de réaliser ça justement à l'envol. Ça se pourrait-tu que t'es déjà... Ouais, OK, ouais, je t'ai déjà vu.
J'ai à peu près fait toutes les écoles du Québec. Où souvent, je vais dans l'école puis je suis déjà venu ici. Puis le gars dit non, mais on a une pareille à côté. Ah, OK, c'est elle.
C'est elle.
J'en ai fait beaucoup.
Et finalement, là, pour bien conclure, tous ces projets-là, là, les films, les affaires comme ça, y a-tu moyen d'y revoir? Tes livres, c'est où que ça se vend?
Oui.
Si tu veux te plugger un peu.
Ben, le livre, ça s'appelle Everest, rêve ou destin. On a fait 3000, puis malgré ça, il n'en reste pas. Moi, j'en ai trouvé un, parce que je voulais en avoir un. Écoutez, je vais avouer de quoi, là, j'ai acheté un de mes livres. Je l'ai trouvé un chez le distributeur, je l'ai acheté, parce que je voulais le donner à un ami, fait que j'en ai retrouvé un. Il y en a de temps en temps, mais vous pouvez, mettons, ici à Lévis, Éco-Livre, ça m'est arrivé d'en trouver.
Oh.
Puis je les achetais, puis ma fille, elle disait, papa, t'achètes ton livre? Puis je disais, chut.
Ouais.
Je l'achète, puis je veux le donner à d'autres.
Ben oui.
Moi, j'en ai, là. Fait que bref, il y en a quand même 3000 en circulation. Fait que des fois, on peut en revoir chez Colive ou des places comme ça. Fait que oui, c'est possible d'en trouver. Sinon, j'ai écrit aussi dans d'autres livres qui ont été, je sais pas combien il y en a eu publiés, mais on a écrit, ça s'appelle, c'est pas histoire, j'ai oublié le titre, c'est pas drôle. Un petit blanc de mémoire. En tout cas, bref, j'ai participé, mais c'est plus l'écriture du Choyou, mais c'est une petite histoire parmi tant d'autres. Rêve de montagne, qui a été publié, c'est-tu, pas celle-là, c'est XYZ. Fait que, bref, ça a été publié. Fait qu'il y a une petite histoire là-dedans, mais c'est surtout celle-là de l'Everest qu'on peut peut-être retrouver, que j'ai écrit. Je l'ai fini, puis a été édité quand j'étais au K2, en 2006. Fait que ça l'a été, mettons, entre 2004 et 2006, là, c'est là que j'ai écrit ce livre-là. Que j'ai raconté tout simplement l'histoire.
Finalement, est-ce que tu as des réseaux sociaux aussi, des affaires comme ça?
Je suis sur les réseaux sociaux, mais j'avais un site internet que j'ai pu, parce que comme je donnais plus de conférences, il aurait fallu que je le mette à jour. Il n'était plus à jour. Fait que je l'utilisais moins. Mais sinon, puis tu posais la question aussi pour les films.
Les films, oui, oui.
Oui,
je voulais pas.
Je me demandais, oui. Okay.
Pour les films, malheureusement, c'est des films qui n'ont pas été faits en version autre que conférences. Puis ce que j'explique souvent aux gens, il aurait fallu que je refasse des versions différentes si j'avais voulu, parce que c'est un film où je suis pas dedans. Je suis sur scène. Fait qu'on voit les compagnons, on voit tout ça. Puis moi, ben, je suis pas dans le film la plupart du temps, à part quelques places. Puis des fois, on sait même pas, on me voit de dos, là, parce que je suis sur scène. Fait que le film a été monté, ces films-là ont été faits pour la scène d'abord et avant tout. Fait que pour l'instant, ils sont pas nécessairement disponibles. Il y avait eu une série Enquête d'aventure qui avait un autre bout de film de l'Everest qui a été fait là, par rapport à mon ascension là-bas. Mais ça, il avait fait un parallèle entre l'ancien banquier qui allait gravir des montagnes puis qu'aujourd'hui vivait de ses montagnes. Parce qu'il disait habituellement, les gens de montagne aimeraient bien être banquiers, mais c'est tout ce qu'ils savent faire, grimper des montagnes. Fait que ça donnait une analogie inversée. Là. Il avait été me filmer en habit-cravate dans mon ancien centre financier. Puis je me métaphosais. Je me changeais en alpiniste d'un coup sec. Là. Fait que c'était bien drôle.
Mais ça, c'est dommage qu'on puisse pas les retrouver.
Il faudrait que j'en refasse des versions différentes.
Un jour, là.
On aimerait ça voir ça. Pour des...
Mais il y a des extraits, si tu tapes Everest. Tu peux en retrouver avec le musicien Stéphane Desbiens. Deep Project, là, qui fait la musique. C'est du rock progressif sur Band Mes Films. Fait que des fois, il y a des petits bouts que tu peux retrouver, certains extraits, là. On a toujours moyen de trouver certains bouts. Mm-hmm. Mais malheureusement, le film aurait dû être complètement remonté pour des versions... soit télé ou quand je suis pas là.
Ouais, peut-être éventuellement, là, on va te recroiser à Salle Albert Rousseau avec un film. On sait jamais finalement. Tu sais, tu l'as dit, t'as pas fermé la porte, là, je crois.
Non, j'ai pas fermé la porte.
Mais bon, ça se peut que tu nous voyes dans la salle si tu refais un grand explorateur. Là.
Il y a quelques années, j'aurais dit, t'as des bonnes chances de me croiser Albert Rousseau, mais là, c'est moins fréquent.
Peut-être éventuellement. On ferme pas la porte. Hey, puis merci pour de vrai d'être venu. J'ai vraiment trouvé ça inspirant. Oui. C'était vraiment un bon choix d'invité qu'on a fait, je trouve. C'est de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir apprendre aussi ça ressemble à quoi tout ça, l'Everest, tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que en plus de justement avoir monté l'Everest, tu as réussi à rajouter, je sais pas comment le dire, à pimper ça après, de réussir à faire des conférences pour tous les élèves. Et je trouve que des conférences pour des élèves, c'est bien beau leur dire réussis tes rêves et tout. Mais quand il n'y a pas de métaphore, puis la métaphore est puissante, il capote sur l'Everest, c'est sûr que ça marque des jeunes. Puis justement, bon, on a la preuve. On a la preuve
c'est vrai. C'est vrai.
Ici que ça a marché.
Ah, c'est vrai, c'est beau d'avoir pu tourner ça d'une manière qui redonne à la communauté. Là,
transposes des leçons puis qui sont assez universelles, là, comme l'échec, justement, ça peut s'appliquer à l'école. T'sais, des fois, je connais du monde. Je pense que c'est Hugo, tu m'as parlé d'un de tes amis dans ton bac qui dit au début, j'ai eu genre 70 au premier examen, je vais lâcher, là, tu sais, nanana. Sûrement que ce gars-là, il a jamais eu d'échec dans la vie, puis là, pour une fois, il mange un petit coup, là, puis il se retire. Puis moi, j'en connais du monde qui aurait eu des gros potentiels, mais ils prennent pas en considération cet aspect-là de la vie qui est normal, puis que quelqu'un, justement, qui atteint le succès souvent, c'est qu'il a connu des échecs. Puis, tu sais, de juste d'y penser de temps en temps, ça fait du bien. Peut-être c'est cette conférence-là, puis peut-être j'ai entendu ça aussi durant ma vie, puis qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, quand j'ai des échecs, j'essaie de passer au travers, tu sais, puis ça m'aide, là.
C'est la façon de le voir. L'échec fait partie de l'apprentissage. C'est ce qu'on en fait après qui décide. Moi, quand je suis revenu du K2, je ne cacherais pas que pour moi, c'est un échec. Je voulais même pas faire de film. J'ai dit, je n'ai même pas atteint le sommet, je ne ferais pas de film. J'ai eu pneumonie, on est monté aux trois quarts de la montagne seulement, bon, etc., etc. Mais finalement, avec le temps, j'ai réalisé qu'on avait quelque chose de gros. Ça a donné mon meilleur film. Parce que, comme je dis, c'est un film plus intérieur. L'Everest, c'est un survol, mais l'ascension et tout ça. Mais alors que le K2, c'est un film intérieur où ça marche pas comme on voulait, puis tout se passe pas comme on voulait, puis on manque de mourir une couple de fois, plus le danger de la montagne. Fait que ça fait en sorte que c'est ce qu'on en fait après. Oui, c'est un échec sur le coup, c'est correct. Ça fait partie de l'être humain. C'est ce qu'on en fait après. Qu'est-ce qu'on décide? Je m'en sers-tu comme expérience? Puis comme je dis aux jeunes, si tu vis jamais d'échecs, c'est parce que tu fais rien.
Ah, c'est vrai.
Tu vas en vivre des échecs. Mais sers-toi-en pour aller plus loin. Est-ce qu'on peut se tromper? Ben oui, je suis rentré, moi, puis c'est bien correct, là, ceux qui vont là-dedans, mais moi, c'était pas pour moi. Je suis rentré en sciences politiques à l'université.
Ouais.
J'étais pas à bonne place. Est-ce que c'est un échec? Ben non, je me suis trompé. Je suis parti dans l'armée une couple d'années.
Mm-hmm.
C'est ce que j'ai fait. Puis après ça, je suis revenu, puis j'étais allé en administration qui était beaucoup plus ma place. T'sais, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut pas voir l'échec comme une fin en soi, mais mm-hmm. au contraire comme un tremplin qui nous permet d'aller plus loin.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'il faut pas répéter la même chose tout le temps. Si on fait le même échec 20 fois, il y a un problème, mais il faut s'en servir pour aller plus loin.
Très beau. C'est une belle leçon. On laisse le public là-dessus.
C'est ça. On laisse le public avec ces mots-là. Mais moi, j'étais sans mots. Ouais. Moi, j'écoutais. Je pourrais écouter ça pendant des heures, finalement. Mm. Un monologue de l'invité. Mais pour de vrai, comme je disais, un énorme merci d'avoir accepté. On espère que tu as passé un bon moment. Et si éventuellement tu veux réécouter ton entrevue, ou les personnes qui écoutent, c'est plus pour les personnes qui écoutent en ce moment, l'entrevue va être disponible à partir de 11h ce soir. Donc, sur le show des Trois Flots Facebook. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Acast, et nous, ça va être sur les réseaux sociaux demain soir, donc Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, name it, on est partout, on est là, et la semaine prochaine, on a un invité tout autant inspirant. Un gros merci tout le monde d'avoir écouté, et vous avez écouté le show des Trois Flots.
Vous écoutez.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.